Bienvenue au séminaire encore les profs de la République. Bon, il y a pas grand monde. On a donné une carte blanche à Act Up Paris et on en est très content. Donc je vais laisser les personnes se présenter elles-mêmes, plus ou moins. Donc Philippe Mangeau, Marjolaine Desgrémont, Christophe Martel, Victoire Patouillard et Emmanuel Cosse. Dans ce sens-là, je précise que ce sont toutes et tous des ex-présidents d'Act Up Paris. Donc on va commencer par Philippe Mangeau.
Tu veux dire pour me présenter ou pour intervenir?
Pour ton intervention.
Bon. Non, oui, on est tous des anciens présidents d'Act Up Paris. Ça fait un peu ridicule cette espèce d'armée de présidents d'Act Up Paris, mais ça raconte quelque chose en fait d'Act Up. Oui, ou des présidents d'Act Up Paris, puisque Marjolaine est.
Peut-être qu'on n'a pas besoin de ça. Non.
Bon, d'accord. Puisque Marjolaine est présidente actuelle. Non, ça raconte quelque chose de cette drôle d'association où il n'y a jamais eu plus de 200 personnes ou 200 membres, mais qui peut rassembler comme ça des palanquiers de présidents. On est président à Act Up Paris jamais pour beaucoup plus que 2 ans, peut-être 3 ans maximum. Pour des raisons à la fois techniques, parce que c'est fatigant, et puis pour des raisons démocratiques aussi, sans doute. Ça tourne la présidence à Act Up. En attendant le fait qu'on soit rassemblé à un truc rigolo, parce qu'on a été président ou militant plus ou moins actif, voire très actif à des moments différents. Donc je sais pas, c'est peut-être une soirée pour faire non pas tant une histoire d'Act Up, parce que il n'en est pas vraiment question ce soir, mais pour voir comment cette question des corps et de la politique a circulé dans Act Up depuis le début. Moi, je m'apprêtais justement à partir du début. En même temps, on est très très peu nombreux, c'est toujours un peu étrange parce que la majorité d'entre vous savent par cœur tout ce que je vais raconter, mais je vais quand même le faire parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas par cœur. D'accord, donc, eh bien, absolument, donc pour ceux qui voilà. L'idée, c'est de revenir effectivement à cette façon dont Act Up a le grand truc d'Act Up dès l'origine, c'est la politisation de quelque chose qui n'était pas considéré comme un objet politique, à savoir une maladie et a fortiori une épidémie. Or, cette politisation, elle a passé par un usage particulier du corps et une mise en scène particulière de son corps. Ça commence en 87, en 1987 aux États-Unis, en 89 à Paris. Et le geste est le même. Hein, la légende dorée d'Act Up, c'est de dire qu'au début d'Act Up, il y a la colère. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Au début d'Act Up, il y a l'idée que il faut arrêter d'être invisible. Et pour comprendre à quel point c'était crucial et radical, enfin, et nouveau, il faut se rappeler que dans les années 80, qui sont les années d'émergence, mais d'émergence incroyablement rapide et brutale et violente de l'épidémie du sida, ce qui caractérise le sida et les sidéens en premier lieu, c'est l'invisibilité. C'est une invisibilité qu'on peut commenter ou envisager sur deux points. D'abord, c'est l'invisibilité des malades en général. C'est-à-dire que c'est pas la première maladie où on est invisible. Moi, je sais pas, quand j'étais ado, je me souviens qu'il y avait des films qui parlaient de l'invisibilité, enfin de la sortie à la visibilité ou au grand jour de quelques malades du cancer, parce que quand on était malade du cancer, quand on était cancéreux, il fallait se cacher. Déjà, le cancer était une maladie qu'il ne s'agissait pas de montrer. Voilà, souvenir de ce film un peu ridicule avec Annie Girardot qui montrait une femme qui combattait sa maladie et qui osait parler sur son lieu de travail, voire dans sa famille, de son propre cancer, ce qui raconte quelque chose d'un certain type de rapport à la maladie. La maladie, c'est quelque chose qu'on cache. À cela, il faut ajouter le fait que le sida, c'était pire. C'était pire parce que être malade du sida, c'était être malade d'une maladie qui, en même temps qu'on la disait ou qu'on la révélait, racontait quelque chose de sa sexualité ou de certains types d'usages de son corps, comme sa toxicomanie, par exemple, puisque c'était les deux modes de transmission majoritaires dans les premiers cas de l'épidémie. Et que, en gros, il valait mieux le cacher. Enfin, en tous les cas, ça se faisait pas de le dire. Hein. Le nombre de gens qui sont morts du sida, mais qui en fait sont pas morts du sida dans les journaux ou dans les discussions familiales, parce que mourir du sida, c'était être homosexuel alors qu'on l'avait pas dit auparavant, etc., etc. Bref, les gens mouraient du sida. Et puis, on les voyait pas, ou bien on en parlait peu, et ça ne faisait finalement que entretenir et le cercle de la honte, ce qui était extraordinairement pénible, c'est-à-dire qu'on mourait du sida, et en plus, on était assigné à la honte de mourir du sida, et l'inaction politique, puisque de toute façon, ça se voyait pas, et jusqu'à preuve du contraire. Un sujet devient politique et l'objet d'une prise en charge et d'une prise en compte politique et d'une action politique à partir du moment où il est mis sur la place publique. Donc l'idée d'ACT UP, c'est justement de rompre cette espèce de cercle vicieux et mortifère en décidant de sortir littéralement du placard. Enfin, l'expression sortir du placard, ce coming out, pour employer l'expression américaine, elle renvoie à la politisation de l'homosexualité, là, pour le coup, depuis les années 70, avec cette idée qu'il faut arrêter de se cacher, il faut se montrer, il faut affirmer son homosexualité. Eh bien, de la même façon, les premiers militants d'ACT UP ont décidé d'arrêter de se cacher et de mettre leur corps en jeu dans les lieux publics, sur la place publique et dans les médias, d'une façon particulièrement spectaculaire, et d'autant plus spectaculaire que plus on était spectaculaire, plus on pouvait intéresser potentiellement les médias et plus on pouvait donner à notre visibilité une visibilité supplémentaire, enfin démultiplier cette visibilité. Alors, pour aller très très vite, parce qu'il ne s'agit pas de monopoliser la parole, cette façon de se montrer, hein, qui est finalement le premier geste d'ACT UP et peut-être le geste le plus radical d'ACT UP. Au début d'ACT UP, il n'y a pas de discours, ou à peine de discours. Il y a ça, il y a l'idée que on va se donner à voir à quelque chose de vraiment sidérant, et ça correspondait à un certain nombre d'enjeux. Le premier enjeu, c'était de montrer un autre corps que celui auquel on associait traditionnellement la maladie. C'est-à-dire de montrer un corps en action, un corps combatif, un corps qui refuse la stricte posture de la victime à laquelle le malade est traditionnellement assigné. Bref, un corps de malade, mais un corps en lutte contre l'épidémie et qui est prêt à le dire en sortant justement dans l'espace public. Bref, il s'agissait de reprendre le contrôle sur la représentation de soi, et d'assumer pleinement la mise en scène de son propre corps plutôt que d'être assigné à une pure position de malade. Or, dans cette façon d'assumer la mise en scène de son propre corps, il y a eu un travail qui était plus ou moins conscient, mais qui est assez stupéfiant quand on revoit les images. Je pense que tu vas montrer des images tout à l'heure, Christophe, qui était c'était des corps bizarres, les corps d'Act Up, parce que, et dans la façon dont on se mettait en scène, parce que c'était à la fois, c'était la mode, on avait tous les cheveux tondus, et c'était pas seulement une affaire de calvitie, en plus on avait des bombers, enfin on avait tous les mêmes t-shirts, avec les triangles les triangles roses, pardon. Donc il y avait un côté un peu militaire dans cette façon de se mettre en scène, mais en même temps c'était des militaires folles, quoi. C'était des un peu soldats, un peu franchement folles, comme si tous les codes disponibles pour malades mais engagé dans des actions musclées, comme si tous les codes disponibles étaient en quelque sorte perturbés, au point qu'on ne pouvait pas comme ça nous assigner à une position particulière. Par ailleurs, cette façon de mettre en scène son corps, c'était aussi une façon d'utiliser son corps à des fins d'action publique. Et là, je pense que c'est Victoire qui va en parler le mieux. Mais il y a aussi quelque chose de dérangeant là-dessus. Voilà, on est des malades, et ben, on bloque des accès. Si vous voulez passer, il va falloir nous toucher. Or, on sait que c'était un truc compliqué, hein, cette question de toucher les malades, les malades du sida. D'abord, on ne peut pas vraiment les violenter. Il faut dire que Act Up vient très peu de temps après 86, après l'affaire Malikou Sekine, hein, les manifs étudiantes et la mort de ce jeune homme qui était malade et qui avait été tabassé par ailleurs par comment ? Oui, par la BAC. Et donc il y a une sorte de terreur de la part des policiers, hein, l'idée même d'abord non seulement de toucher des malades du sida, mais en plus de les violenter, a fortiori les violenter devant des caméras. Donc ça fabrique une sorte de puissance très grande à partir de la mise en scène en fait d'un corps malade, donc d'un corps faible. Enfin, cette espèce de, là aussi il y a quelque chose d'inassignable, de difficilement assignable dans le fait qu'il y a une sorte de d'aller-retour jamais stabilisable entre la faiblesse et la puissance dans la façon dont on a employé notre corps. C'était pas seulement d'ailleurs une affaire symbolique, et puis parce que là je parle de questions de représentation, hein, c'était aussi un discours, cette façon de mettre en scène son corps, c'était dans la façon dont on affirmait finalement le fait qu'on pouvait faire quelque chose de notre corps, c'est-à-dire dans la façon dont on sortait de la posture traditionnelle du malade, on affirmait aussi quelque chose de notre rapport avec les puissances traditionnelles auxquelles s'affrontent les malades, et en premier lieu les médecins, hein. C'était une façon de dire, ben voilà, nous savons faire quelque chose de notre corps, nous ne sommes plus seulement dans la position du patient allongé ou du patient auscultable, nous le réapproprions, et dans une certaine mesure nous avons un savoir à faire valoir sur ce corps à travers la présence que nous mettons en scène. Bref, tout ça pour dire que dès le départ, en fait, cette question de d'irruption du corps des malades sur la place publique portait en elle-même quelques-unes des directions les plus fortes du travail d'Act Up, autour de l'affirmation d'un savoir spécifique sur son propre corps, autour de l'usage du corps dans une action publique, autour de la question de la réappropriation des représentations de soi qui nous tuaient, quoi, dans tous les sens du terme, avant que on décide de s'en occuper. Pour finir, je pense qu'on n'a pas été objectivement les premiers, hein, à sortir du placard comme ça, à faire de... Il y a bien une longue tradition de ça, hein, d'irruption sur la place publique de corps qui devaient rester à la maison. Que ce soit les femmes, que ce soit les homosexuels, que ce soit, etc., dans les années 70, que ce soit les prisonniers, les prisonniers qui sortent sur le toit et qui se montrent. Ce qui est sûr, en revanche, donc il ne s'agit pas de revendiquer comme ça une sorte d'origine, alors qu'on s'inscrit sinon dans une tradition, en tous les cas dans une histoire qui reste sans doute à faire, mais il me semble que peut-être que plus encore qu'aucune autre population qui comme ça est sortie sur la place publique, les malades du sida, c'est-à-dire que c'est comme si on avait poussé d'un cran cette affaire, parce que le stigmate était considérable, quoi. Parce que le stigmate était considérable sur les malades du sida. Et je crois, il me semble, en tous les cas, que Act Up, ça commence donc à la toute fin des années 80, en 89 en France, et que la façon dont, à leur tour, des sans-papiers ont mis en jeu leur corps à travers des occupations d'espaces publics, mais aussi à travers cette stratégie de la visibilité, alors que le fait qu'ils étaient sans-papiers les assignait justement à l'invisibilité. Puis des chômeurs, puis des sans-logements, etc., ont décidé de faire irruption sur l'espace public en se montrant, hein, en faisant de la visibilisation de leur corps une vraie arme politique. Tous ces mouvements des années 90 et qui se poursuivent, je ne sais pas si c'est dans une moindre mesure, il m'arrive de penser que c'est dans une moindre mesure, mais ce n'est pas si sûr que ça. Il y a aussi de l'inventivité en la matière aujourd'hui. Ils doivent quelque chose à Act Up. Ils ne doivent pas quelque chose à Act Up au sens de la dette, mais ils doivent quelque chose à Act Up au sens au sens où Act Up a peut-être relancé comme ça, repris ce fil qui avait été un peu abandonné entre les années 70 et les années 80. Voilà.
Merci Philippe. On passe à toi, Christophe.
Alors, après toute cette présentation de Philippe, il y a des choses qui vont se croiser, mais c'est normal, hein, on fait partie de la même association, donc on n'est pas complètement sur des longueurs d'onde différentes. Mais ce que dit Philippe, il faut un peu resituer au sens, ça ne marchera pas, mais c'est pas grave, au sens que ça a l'air comme ça facile, et je crois que justement... ça l'était pas du tout à l'époque et il a fallu, je pense, justement toute la radicalité des folles, c'est mon point de vue, hein, c'est un point de vue très personnel, pour que on arrive à ça, qu'on arrive à faire que le malade, le corps du malade soit visible, que le malade se mette se mette en avant pour faire avancer les choses dans le combat contre le sida. Alors rapidement, quelques repères. Le sida arrive en France en 81, VLS, AIDS et ARCAT successivement apparaissent, donc les trois premières associations. Il faut rappeler que elles étaient toutes créées et fondées et dirigées par des homosexuels, mais à l'époque il ne fallait pas parler de ça, c'était pas le propos. C'était des associations de service, des associations qui s'occupaient d'aider les malades, dont l'immense majorité, une grande majorité était homosexuelle, mais le sida, comme la première campagne et les autres qui ont suivi pendant très longtemps le disaient, le sida concernait tout le monde et il fallait pas parler d'homosexualité. Act Up est créé en 89 par Luc Houlavin, Didier Lestrade et Pascal Loubet, et la première action, c'est le corps, effectivement, c'est un die-in, c'était une des actions importées d'Act Up New York, le corps en action, et le corps qui, pour le coup, là, les corps jonchaient le sol de la chaussée pour bloquer la circulation et pour montrer symboliquement les morts du sida, donc un die-in, les personnes sont allongées en silence pendant plusieurs minutes, mais je pense que Victoire nous en parlera. Donc ça c'est une des premières manifs d'Act Up, donc un die-in avec aussi des choses très visuelles, encore une fois, c'est ça la différence d'Act Up par rapport aux associations. Ce n'est pas une association de service, c'est une association politique, et c'est surtout le corps et la visibilité. Ce que veut Act Up, c'est rendre visible cette épidémie. Il faut se souvenir qu'à l'époque, en 89, les malades, quand ils intervenaient à la télé, étaient floutés ou avec un carré sur les yeux pour ne pas qu'on les reconnaisse. Et je crois que cette image du PD en colère, qui était très différente de la victime du sida, on le doit aussi aux folles radicales d'Act Up. C'est une des premières manifs, c'était un picketing devant le ministère de la Santé. ACT UP s'est inspiré beaucoup des principes de Denver qui, en 83, ont énoncé ce qui fera la lutte contre le sida par les malades. Parce que voilà, c'était pour la première fois, enfin, en tout cas, par rapport à une grande épidémie et par rapport à une maladie, les malades prenaient en charge leur maladie. Et ce que disaient les principes de Denver, je les cite, enfin, une des phrases importantes, c'est « Nous condamnons les tentatives pour nous traiter de victimes, un terme qui implique la démission, et nous ne sommes qu'occasionnellement des patients, un terme qui implique la passivité, l'impuissance et la dépendance à autrui. Nous sommes des « people with AIDS », des personnes avec le sida. » Après rajoutera des personnes vivant avec le sida. Au début, c'est vrai qu'on mourait très vite avec le sida, donc c'était difficile de dire des personnes vivant avec le sida, mais quand même relativement vite, dans les années 90, on a pu dire vivant avec le sida. Donc c'est vraiment ces principes de Denver qui ont fondé le groupe et que le groupe a pris comme tel. C'était très important au début d'ACT UP de rappeler ces principes qui n'étaient pas tellement énoncé, tellement repris par les autres associations. Là, je change de diapo. Voilà, donc là, on voit bien qu'effectivement, une des puissances d'ACT UP, c'est d'avoir réussi à incorporer des gays, des lesbiennes, à la fois en colère, mais aussi flamboyants ou flamboyantes. Et Philippe l'a dit, cette approche, ça a eu effectivement un impact sur d'autres groupes, comme justement des groupes de sans-papiers, des groupes de migrants, des groupes de toxicomanes, enfin toutes les manifestations de visibilité qu'on a vues. Et c'est vrai que on en parlait récemment avec Anne Coppel, qui était une des militantes de la réduction des risques par rapport aux toxicomanes. C'est ça qui la frappait, c'est qu'ACT UP arrivait dans les réunions et disait non, ça suffit. On ne fait plus les choses comme ça, on veut des réponses, on veut des actes. Et c'était nouveau, y compris dans les discussions et dans les rapports avec les institutions. Tout à l'heure, Philippe parlait des tenues paramilitaires d'un côté, des tenues au contraire très féminines de l'autre. Et Jean-Yves Le Tallec, il l'écrit dans un livre qui doit paraître sur le sexe du militantisme. Si l'objectif premier d'ACT UP Paris et du mouvement ACT UP dans le monde reste bien la lutte contre l'épidémie, l'association s'appuie sur une figure de la folle fortement revendicative sur le plan de la sexualité et en quelque sorte par extension sur l'identité de personnes séropositives. Et en fait, le travestissement, ça va dans les deux sens. C'est à la fois effectivement, on est folle mais on s'habille en paramilitaire pour créer un choc, pour créer une pour subvertir le genre, pour créer une espèce d'effet de surprise. On sait plus très bien où on est. Et parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire à la Gay Pride par exemple, on est en pom-pom girl. J'y suis, on me reconnaît, on me voit pas, mais j'y suis, j'étais tout content d'y être. Et en pom-pom girl, parce que voilà, c'était aussi de dire, eh ben oui, on est folle, on est là, et il faut vous habituer à nous. Par rapport à ça, je crois que le meilleur exemple, celui qui a le plus personnifié, incarné, enfin, tout ce qu'on veut, cette figure de la folle hystérique, méchante, c'est Clouz Vellet, qu'on voit ici avec son ombrelle, donc en Miss ACT UP en 1993. Donc Clouz Vellet avait remplacé Didier Lestrade à la présidence d'ACT UP en 1992. Lui, il avait aucun souci à être totalement folle. Et là, on le voit donc en Miss ACT UP. Il est né en banlieue parisienne. Il a fait plusieurs boulots. Il était pâtissier quand il est arrivé à ACT UP. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Philippe parce que j'avais écrit quelque chose là-dessus sur les folles à ACT UP. Et ce que me disait Philippe, je vais le citer aussi. Moi, j'aime bien citer les gens. Philippe me disait, c'était l'instabilité. De la façon dont il se présentait, son art de la variation, entre parenthèses, souvenir de Clouz, tour à tour, petit mec écorché et folle hurlante, ce type était la diversité d'ACT UP à lui tout seul. J'avais prévu, mais on le fera peut-être tout à l'heure, parce que visiblement ça ne marche pas ici, normalement il suffit que je clique, mais ça ne clique pas, de vous montrer un petit extrait d'un film que Brigitte Tijoux avait réalisé après le décès de Clouz, sur Clouz, donc portrait d'une présidente, puisqu'il se désignait lui-même comme présidente. Mais on le verra tout à l'heure, c'était un tout petit morceau. Et en fait, pour moi, la contribution la plus importante des folles radicales et de Clouz Vellet en particulier est très politique. C'est vraiment que En tant que folle radicale, je sais ce que c'est que d'être marginalisé, je sais ce que c'est que d'être de souffrir de discrimination, et je peux pas, moi, tenir à l'écart les autres groupes qui sont touchés par le sida. Il faut savoir qu'à ACT UP, au début, c'était les traitements, on veut des traitements dans nos corps, on veut vivre, donc on veut des traitements. On savait qu'en plus, aux États-Unis, ils arrivaient, on les avait pas en France. Et Clouse, c'est le premier, par exemple, qui nous a dit, non, mais il y a aussi des tolards avec le sida, moi j'ai jamais été en prison, mais il faut s'occuper de cette question. C'est celui aussi qui nous parlait justement beaucoup de toxicomanie, c'est celui qui parlait des femmes, de la recherche par rapport aux femmes, qui était très en retard. Et ça c'était vraiment ce lien quoi, entre les différents groupes touchés par le sida, et ça vraiment pour moi cette contribution de Clouse est très forte, a été très très forte pour le groupe, et je crois que voilà, quand on est folle et qu'on est folle radicale, et bien sûr qu'on peut pas se sentir coupé des autres personnes qui sont discriminées. Les folles étaient elles-mêmes discriminées à l'intérieur de la communauté gay. Hein. Faut pas croire que c'était facile d'être folle, et bon, c'est vrai que ACT UP était puissant, mais c'était pas non plus tellement facile, y compris dans la communauté gay. Donc pendant les réunions, ça c'était une réunion d'ACT UP, oui, ça a un peu changé. Il y avait du monde, mais c'est pas ça le plus important. C'est vrai que là je sais plus bien où j'en suis. Ça c'était 93, oui, c'était 93. Voilà, en tout cas, vous voyez, ACT UP était un groupe qui avait réussi à réunir une coalition, et c'était il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup de PD, il y avait aussi des toxicos, enfin, c'était voilà. Alors, ce qui était intéressant aussi dans cette période 92-93, c'est l'apparition d'Action. Enfin, Action apparaît plutôt en 91, mais en tout cas, bon, devient vraiment la lettre mensuelle d'ACT UP Paris. Et du coup, ACT UP se met un peu à marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire à la fois la partie théorique, les principes, les 12 mesures d'urgence, puis après tout ce qu'on a écrit, le livre d'ACT UP en 94. Donc, et ça, on le doit aussi beaucoup à Philippe et à sa bande entre guillemets, des gens qui sont arrivés à ACT UP et qui n'étaient pas forcément tous très folles, mais en tout cas qui étaient très théoriciens et très intellectuels et qui ont apporté à ACT UP ce courant-là et qui ont vraiment posé les fondations, je peux dire, d'un groupe à la française, entre guillemets, enfin, même si ça fait bizarre de dire ça, on nous reprochait beaucoup d'être un groupe importé, avec Action, avec le livre, on a montré que voilà, c'était un groupe totalement dans l'histoire française du militantisme, même si on apportait des choses totalement nouvelles dans le militantisme. Donc là, je vais changer, voilà. Et je pense que voilà, il faut se rappeler que 93, c'est aussi cette année où on a réussi à mettre une capote sur l'obélisque. Et je pense que voilà, il fallait être vraiment folle pour se dire qu'un jour on arriverait à mettre une capote sur l'obélisque. On remercie quand même Benetton pour ça. Et ça continue, c'est-à-dire que cette radicalité folle permet, enfin voilà, elle est encore aujourd'hui. Ça, c'est une manif de l'année dernière contre les franchises médicales, et on voit bien que là aussi le corps est en action, le corps y compris est même taché. Enfin voilà, on jette du faux sang sur le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports pour protester contre les franchises médicales, mais on s'en prend aussi un peu plein la gueule, c'est le cas de le dire. Et voilà. Alors il y avait aussi dans la il y a le corps, il y a aussi les mots, et les mots des folles, c'était beaucoup la partie le supplément, ou en tout cas la page Miction. Donc Miction, c'était une page dans Action. Et juste pour vous citer, c'était pas toujours de très très bon goût, déjà le titre, oui. Et alors c'est où j'étais ? C'est un peu avant. Bon, il y avait cette histoire de voilà, il y avait par exemple là, je crois que c'est dans celle-là où ACT UP et la compile, je sais pas si vous voyez. Donc là, ACT UP avait Miction annonçait qu'ACT UP allait sortir une compile de 15 titres, ce qui correspondait au nombre de CD4 des 50 militants les plus anciens de l'association. Les CD4 sont les défenses immunitaires, les cellules, les lymphocytes CD4, les cellules de l'immunité qui sont attaquées en premier lieu par le virus. Alors donc les mots, c'est aussi ce mot. Enfin bon. Ouais. Des couetches, voilà, c'est le mot qu'utilisait beaucoup Clouse, pour plein de raisons. Enfin, Philippe en parle dans le film justement avec de Brigitte sur Clouse. Des couetches, ça pouvait être un peu tout et n'importe quoi. C'était oh, t'es couetche ou t'es une pauvre couetche ou c'est couetche, mais voilà. Et bon, il faut imaginer, et Philippe le rappelle dans le film, l'effet que ça peut donner quand Clouse Vellet est à une réunion avec le ministre de l'Éducation de l'époque, Jacques Lang, que la réunion, évidemment, comme d'habitude, s'éternise, qu'on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, et que Clouse, voulant soit y mettre fin, soit en tout cas provoquer quelque chose, se lève et dit « Mais c'est qui la couetche? C'est vous ou c'est moi ?» Il faut imaginer l'effet que ça fait à un ministre d'entendre qu'il est traité de couetche, quoi. Et que, bon, surtout Jacques Lang, c'était assez rigolo. L'effet est garanti, en tout cas. L'effet tétanisation, on va dire, est assez garanti. Et moi, j'ai vécu un peu la même chose avec Clouse à une réunion avec Raymond Barre, où Raymond Barre a reçu Act Up, il faut le dire. Et là, pareil, je pense qu'à la fin d'un moment, on sentait que c'était sur la question des étrangers sans papier, etc., où il nous a ressorti le coup de... il faut pas, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Et là, Clouse lui a dit, écoutez, là, vous êtes trop couetche, enfin, un truc comme ça. Et on est parti. Le corps bouge aussi. Le corps d'acteur bouge, hein. C'est pas genre, on reste assis parce qu'il faut rester assis devant un ministre. Non. Quand ça va pas, on se lève, on s'en va. Alors, est-ce qu'on peut dresser le portrait robot des folles d'Act Up? Ça, c'est une manif plus récente, j'ai pas la date, mais c'était la manif où Act Up avait décidé d'être en demoiselle de Rochefort. 2005. Merci. Bon, le portrait robot, c'est peut-être pas évident. Alors, toujours pour ce chapitre d'un livre sur les folles, et donc j'avais rédigé un très beau chapitre sur les folles à Act Up, le livre n'est jamais sorti. C'est pas grave. J'avais interviewé plusieurs folles, justement, et plusieurs folles de plusieurs époques. Alors, voici, bonjour, Mathieu Duplay, donc vous voyez au premier plan, en pom-pom girl. Mathieu Duplay, là c'est en 92, il est prof de littérature américaine à l'Université de Lille. Il a été membre d'Act Up entre 91 et 95, et voilà ce qu'il dit justement de son arrivée à Act Up, je le cite. Je vais vite. Act Up était un groupe très majoritairement homosexuel, mais c'était ma première expérience d'un groupe gay avec des femmes. Ça m'a marqué. J'avais le sentiment que ça marchait mieux. Il y avait une liberté de parole, la liberté d'être une folle tordue au dernier degré, et en même temps, ce n'était pas le folklore de la rigolade. La folitude était politique et jamais séparée de l'activisme. Et il a cette définition de Clouse que j'aime bien aussi, où il dit on peut être très folle et politiquement très dure, mais Clouse n'était pas la folle qui ne sort plus de chez elle quand elle s'est cassée un ongle. Toujours le corps, hein, on parle des ongles. C'était la vraie folle, celle qui a conscience des raisons de sa folie, qui sait ce que ça veut dire d'être folle, qui sait ce que ça représente comme potentiel de subversion, de revendication, et qui va jusqu'au bout de cette démarche-là. Alors je l'avais appelé en fait la folle lyrique à cause de son rêve secret, un rêve de folle, et en fait il aurait aimé participer à une action d'Act Up en tenue de scène, très précisément dans le costume que porte la Calas, ici présente, dans une production de l'opéra de Gluck, Iphigénie en tauride. Et je cite toujours Mathieu, « C'était une robe à panier 18e siècle, avec une traîne de 10 mètres et une soufflerie derrière qui faisait partie du costume, bien sûr. La soufflerie faisait le vent de la tempête. J'avais essayé d'imaginer des actions où j'aurais pu placer ce costume, mais je n'ai jamais réussi et j'étais toujours frustré, c'était trop cher. C'est la soufflerie qui posait le plus de problèmes. » Bien sûr. Alors, on change d'époque, un peu plus tard, voici Nicolas Malouli, qui se présente lui-même comme PD, architecte, libanais, dans cet ordre, et qui a été membre d'Act Up de 96 à 2004. Et lorsque je lui demande ses premiers souvenirs de groupe, c'était une énorme boîte à couture qui lui vient à l'esprit. Alors, il dit, je me suis très vite occupé de la fabrication des banderoles, je découpais des lettres dans du vénilia rigide que je collais sur le tissu, c'était très clair, c'est pour ça qu'on est photographié. Je vérifiais la largeur de la rue pour calculer la quantité de tissu dont j'allais avoir besoin, j'allais acheter au marché Saint-Pierre, là où c'était le moins cher, je m'amusais aussi à trouver des tissus roses, pailletés, moirés, j'avais lancé une technique, les trous que l'on découpait dans les banderoles pour laisser passer l'air étaient faits au hasard, et je n'aimais pas ça. J'ai réalisé un patron pour que les trous, quand il s'ouvrait, et la forme d'un triangle, tous de la même taille. Vous comprenez pourquoi je l'appelle la folle couture. Et Nicolas, lui, disait que justement ce qu'il aimait chez les folles d'Act Up et les folles d'Act Up, c'est qu'elles agissaient de manière déplacée, Enfin, c'est le terme qu'il utilise, ce qui pour lui est un compliment. Hein. Et c'est pour ça que justement il disait que les folles existent pour agir de manière inappropriée. Et là, je le cite, les gens disent toujours « Je suis d'accord avec ACT UP, mais je ne dirais pas les choses comme ça, c'est injuste. » Je leur réponds qu'on n'a juste pas le temps. Il n'y a pas d'autre façon de les dire. Et enfin, donc ça c'est une des réalisations, je pense, enfin, entre autres de Nicolas, oui, c'est assez efficace effectivement, puisque l'idée de tout ça, les corps, les mots, les slogans, les posters, c'est aussi la médiatisation d'ACT UP, c'est aussi d'être visible dans les médias et d'avoir un message qui passe et qui est efficace. Dernière folle, Thierry. Qui est Safe Queen. Alors lui est arrivé, je sais plus quand, ACT UP finalement, j'ai pas la date. Mais il y est par intermittence, il est aussi pute par intermittence. Enfin, on dit travers du sexe, mais lui préfère dire pute. Escort en anglais. Et lui, il se faisait appeler Zeta Star et il se servait de ce personnage en fait dans les manifestations. Et il l'explique, je me suis servi du personnage de Zeta Star dans sa dimension politique. La première fois, c'était pour une manifestation de sans-papiers. Je me suis travesti et je hurlais au milieu de la manif. Trans, Gwyn, PD, on veut des papiers. J'étais complètement hystérique. Et voilà, il utilise aussi cette folitude dans son travail de prévention. Et il rajoute, j'aime beaucoup la revendication Safe Queen à ACT UP parce que ça donne un côté drôle de dame ou Wonder Woman. On est des modèles. Ceux qui critiquent les adeptes de la capote ne sont que des jaloux. Il faut savoir être un peu garce. Moi, je suis safe. C'est ce qu'il dit. Hein, moi, je suis safe. Et limite, j'ajoute que je suis toujours séronègue. Voilà. La folle méchante aussi. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que depuis 96, c'est vrai, ACT UP a quand même souffert d'une désaffection, mais que les folles, comme les autres, bah, elles sont aussi passées à parfois autre chose. Mais c'est vrai que dans la lutte, dans la longue lutte déjà maintenant contre le sida, et mis à part les sœurs de la perpétuelle indulgence, donc qui sont des travestis aussi dans la lutte contre le sida, il y a aucun groupe quoi qui a été le plus influencé par les attitudes, les gestes, les mots, on en a parlé, les extravagances, les excès des folles. Aucun groupe, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'a eu cet impact par rapport dans la lutte contre le sida. Mais ACT UP, Philippe l'a dit, ça n'arrive pas de nulle part et il faut juste rappeler comme un clin d'œil que ACT UP tient ses réunions depuis un bon moment déjà aux Beaux-Arts, donc dans un amphithéâtre des Beaux-Arts où dans les années 70, au tout début des années 70, se réunissait le tout premier groupe gay, enfin homosexuel français, le FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire. Et voilà, il y a cette filiation, si on peut dire, entre le tout premier groupe de visibilité homosexuelle et le premier groupe de visibilité des séropositifs et de la maladie. Et je conclurai, vive les folles et God save the Queens. Voilà.
Merci Christophe. On va passer à Victoire Patouillard.
Oui, donc moi je vais parler de l'action publique parce que j'en ai fait beaucoup et j'ai été responsable de l'action publique. Donc on va retrouver là des choses que vient de dire Christophe, mais par rapport à cette forme d'action particulière qu'a inventé ACT UP, qui est le ZAP, et où il s'agit, enfin par rapport à la soirée de ce soir, donc de voir la manière dont on utilise son corps dans ce mode d'action qu'est le ZAP. Alors je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que c'est. Bon, donc le ZAP, c'est comme ça que ACT UP appelle cette forme d'action, et c'est ce qu'on appelle parfois une action éclair, une action coup de poing. Il s'agit de se rassembler une dizaine, une vingtaine de militants pour faire irruption dans un lieu. Donc ça s'inscrit dans toute l'inventivité des modes d'action qu'il y a eu depuis les années 60, 70. Donc c'est parmi dans tout ce répertoire d'action, une des formes qu'a choisi ACT UP. et qui se distingue très nettement, et c'est ce qui est intéressant, même si on faisait des manifestations par ailleurs, qui se distingue de modes, voilà, d'action politique plus traditionnelle, comme la manifestation, et notamment simplement parce qu'il ne s'agissait pas de jouer sur le nombre, il s'agissait de jouer sur l'image et sur la capacité à perturber l'ordre des choses. Alors, pour préciser un petit peu les choses, je vais partir des mythes qui sont associés à ce mode d'action, parce que ça charrie toute une mythologie, et nous-mêmes, on entretient cette mythologie, qui est en gros une manière d'associer ce type d'action à un univers assez militaire, et le jeu, effectivement, sur l'uniforme, avec le... participer à ces actions, c'est aussi donc accepter le dress code des actions, qui était extrêmement strict, hein, presque autant que dans certaines boîtes. Donc c'était le t-shirt avec un triangle, le bomber, les cheveux courts pour les garçons et pas mal de filles. Donc autant il y avait là, vous avez vu toutes sortes de la plupart des costumes, hein, sont des costumes de Gay Pride, autant dans les actions il y avait effectivement un modèle, hein, qui était assez strict et assez militaire. Donc on jouait nous-mêmes, hein, de cette dimension de gang et de commando, avec un esprit qui était quand même dans les modèles, qui était quand même plus les Fantomètes ou le Club des Cinq, réellement des films de guerre qu'on avait très peu vus, mais il y avait un jeu là-dessus. Maintenant, si on s'attache vraiment à la manière dont les corps se comportent dans une et dans l'objectif qui était poursuivi dans l'action, dans les apps. On est forcé de s'éloigner de cette image militaire, parce qu'elle supposerait à la fois une violence et une discipline des corps, qui serait une discipline qu'on obtiendrait par un entraînement militaire. Alors on pouvait faire semblant de ça, mais non. Alors sur la violence, c'est dans le livret d'accueil d'ACT UP, et c'est un des principes qui est le plus réaffirmé, il y a un principe de non-violence. Alors ce qu'ACT UP entend par un principe de non-violence, c'est qu'on n'est pas dans une recherche de l'affrontement physique. Donc il s'agit de faire usage de son corps, mais il ne s'agit pas que l'action soit un corps à corps, même si l'engagement des corps est extrêmement intense. Donc... il y a une violence il y a une radicalité dans l'intensité des corps engagés, et il y a une violence dans le zap, mais c'est pas une violence qui est sous la forme de l'affrontement. La violence, et là du coup ça va rejoindre, ça fait écho à des choses que Christophe vient de dire, il s'agit de perturber l'ordre des choses en refusant de faire certaines choses. En gros, il s'agit de faire irruption le moment où le zap marche le mieux, c'est quand c'est des espaces extrêmement codifiés, où la codification, de toute façon, n'apparaît même pas tant elle est intériorisée par tous ceux qui participent. Donc ça peut être un plateau de télévision, une conférence médicale, un rendez-vous dans un ministère, une église. Enfin bon, il y a des lieux. Plus le lieu est codifié, plus le ZAP permettra, par l'irruption des militants et donc le refus de s'adapter à ces codes gestuels qui sont ce qui est attendu, ce qui est requis dans ces endroits-là, plus donc la perturbation va être forte. Mais pour vraiment comprendre le ZAP, il faut voir que ça peut prendre des formes extrêmement donc violentes et dures, c'est-à-dire qu'on va crier, jeter du sang, couper la parole, insulter quelqu'un, mais ça peut aussi fonctionner sur des choses où la subversion va être très fine et n'en est pas moins forte. Donc par exemple, un des principes, dans les subdivisions, donc il y a le principe du zap et il y a aussi le die-in, donc qui consiste à s'allonger par terre pour qui à la fois utilisé en manifestation lors du 1er décembre et lors de la Gay Pride pour symboliser les morts du sida, et qui est un moment lié à la commémoration, qui est lié à la mémoire, qui est un moment d'émotion et de recueillement. Et le die-in est aussi utilisé dans les actions, mais là plutôt dans un usage tactique. Donc par exemple, ça va être à l'entrée d'une conférence où par exemple on n'a pas été invité, ou alors les malades n'ont pas eu la parole, ou pour on va s'allonger à l'entrée de la conférence, ce qui fait que les gens qui y participent vont se trouver dans une situation où soit ils restent en dehors, ce qui est un peu ridicule, soit ils sont forcés de nous enjamber. Et enjamber un corps, c'est à la fois, ça semble très pacifique, et faites-le, c'est extrêmement gênant. Parfois, on est tellement serré qu'ils doivent nous enjamber et nous toucher en même temps. Donc, il y a une gêne extrême, et toute l'efficacité du ZAP, elle est là-dedans. C'est de, le ZAP fonctionne quand il y a cette gêne, et quand cette gêne, par ailleurs, pourra être aussi immortalisée par des photographies ou par des caméras. C'est-à-dire que c'est un jeu, parfois sur des cris, hein, et aussi, enfin, ou les sifflets et tout le registre qu'on peut mobiliser, et parfois imposer un certain silence, imposer qu'on soit touché ou qu'on soit enjambé, qu'on soit traité comme des corps passifs et vulnérables. C'est extrêmement gênant. Et généralement, les gens essayent d'obtenir de nous autre chose parce qu'on, en nous disant vous êtes ridicule, arrêtez. Bon, et c'est ça, c'est là-dessus que ça repose. Et l'idée étant, en perturbant l'ordre des choses, l'idéal est aussi de faire sortir les gens d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'eux sont dans cet espace codifié, et il y a ce moment où ça devient insupportable. Enfin, je pense à un zap d'un cocktail d'assureurs avec Stéphane, où on était donc, bon, c'était un immense cocktail au Palais des Congrès, donc c'était un truc vraiment gigantesque. On était arrivé sur les escalators très bien habillé pour une fois, donc on n'était pas dans l'espace, on n'était pas dans notre uniforme militaire, on était extrêmement élégant. Et il fallait à la fois tous rester en vue et trouver notre cible, qui était Denis Kessler. Donc il fallait l'identifier, et une fois qu'on l'a trouvé, on s'est tous rassemblés, et là il s'agissait donc de l'interpeller en le montrant du doigt, hein, ce qui ne se fait pas, jusqu'à obtenir des réponses, et où lui se décompose progressivement. Et enfin, là j'aurais dû apporter des photos comme Christophe, parce qu'il, enfin, il y a une image qui est restée, qui est l'image de Stéphane, qui était responsable de l'action, qui le pointe du doigt, et c'est une image extrêmement forte, et parce qu'il y a un jeu de regard et un jeu de, ils savent plus quoi faire, et cette ambiance de cocktail, et voilà, c'est la situation idéale, parce qu'ils sont quasiment un petit four à moitié mangé dans la main, et ils sont face à un malade du sida et qui hurle dessus, et il y a une sorte de, voilà, ils savent absolument pas quoi faire. Dans à la même période, on avait perturbé une assemblée générale des actionnaires, et là c'était du même ordre, c'est-à-dire qu'on avait réussi à rentrer, c'était l'UAP au Bois de Boulogne, dans des petits endroits où on fait, voilà, au Vergalant, dans ces endroits ravissants. Et on s'était simplement allongé sur, on faisait presque rien, on était juste allongé sur l'espace où les gens doivent parler, avec quelques pancartes. Alors au début, ils ont continué à parler. Très vite, ils se sont rendus compte que même si on faisait rien, c'était absolument impossible de continuer à parler. Et ensuite, tout le problème a été, que faire de nous ? Sachant que la police était là, mais de là à faire rentrer la police et qu'on voit des gens traînés sur le sol par des policiers. Donc finalement, on a eu trois quarts d'heure, le temps que les policiers se changent, s'habillent en civil, reviennent et puissent nous évacuer une fois en civil. Donc voilà, il y a une bon, alors après ça peut, on a vu là les jets de sang. Dans les autres formes que ça peut prendre, il y a aussi le mariage qu'on avait fait à Notre-Dame, où là en soi effectivement il s'agissait simplement d'organiser un mariage entre deux filles à Notre-Dame. Avec la musique, enfin, la marche nuptiale, et puis le Figaro avait commenté un faux mariage avec de vraies drag queens. ce qui était pas si loin. Enfin, bon, nous on considérait que c'était un vrai mariage, et puis c'était pas parce que les demoiselles d'honneur étaient des garçons, mais je pense qu'ils se définissaient pas exactement comme drag queen. On avait récupéré d'ailleurs les très jolies robes des demoiselles de Rochefort pour l'occasion. Donc voilà, il y a sur cette violence, elle repose vraiment là-dessus, le refus de se conformer à des rôles, qui peut prendre donc des formes, la forme ce qu'on associe à la violence, des cris, etc., mais aussi des perturbations extrêmement fines des choses. Et maintenant, dans le deuxième mythologie qui est associée un petit peu à ces actions, il y a l'idée d'une préparation qui serait militaire. Et là, ce qu'il faut bien voir dans les actions d'ACT UP, malgré donc cette image qu'on donne, l'entraînement est très limité. Et il y a une discipline, effectivement, du ZAP, il y a une discipline au moment du ZAP, mais qui tient pas à une sorte d'intériorisation par un entraînement, mais qui tient au fait que déjà on se fait violence à nous-mêmes pour faire ces actions. Il y a pas, c'est pas quelque chose de naturel. Ça peut être extrêmement dur parfois, justement, de les faire, même si on en rit après quand elles sont réussies. Mais ça veut dire sortir de sa timidité, ça veut dire être capable de couper la parole à quelqu'un, faire des choses qui sont il s'agit de sortir de son rôle, et on y arrive en groupe. Et c'est justement parce qu'on est extrêmement démuni que finalement on va, quand on vous a confié une action, si vous devez actionner une corde de brume et faire du bruit et que c'est votre première action, vous êtes tellement absorbé par ça que vous n'allez faire effectivement que ça au moment où on vous le dit, et vous n'allez pas chercher à faire autre chose. Et enfin, la manière dont la subversion d'ACT UP joue, c'est aussi dans le rapport avec les forces de police, où, à la différence de pas mal de groupes radicaux, ACT UP est pas du tout dans une recherche de la conflictualité avec les forces de l'ordre, et au contraire, et là ça peut rejoindre des choses où il y a un jeu là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrêté, on va justement s'allonger par terre. Et là, c'est un autre usage du die-in pour faire en sorte que le moment de l'arrestation ne soit pas un moment violent. Donc le choix qu'on a dans le rapport avec la police, c'est toujours d'essayer de diminuer l'intensité de la confrontation, de refuser d'être dans une confrontation. Très vite, de toute façon, ils se rendent compte qu'on est des filles et des pédés, et il n'y a pas d'ostentation de la force de notre côté. Ce qui fait que ça les oblige, ça peut les mettre mal à l'aise aussi d'une certaine manière, parce qu'ils vont pas pouvoir se comporter. D'abord, ils vont pas pouvoir nous charger quand on fait un die-in, et ils vont pas pouvoir non plus, surtout s'il y a des journalistes et la presse, ils vont pas pouvoir être dans un brutaliser trop. Et par ailleurs, le die-in les oblige à faire ces choses embarrassantes comme porter un corps, faire attention à lui, parce que les photographes sont là, donc prendre soin d'un corps, le porter. Et il y a ce jeu en permanence là-dessus avec la police, et ils sont tellement surpris qu'on refuse la conflictualité qu'ils acceptent d'une certaine manière de rentrer dans ce jeu qui nous amuse beaucoup, jusqu'au moment où ils voient tellement que ça nous amuse que ça les gêne, parce que par ailleurs donc il y a tout un ensemble de choses comme ça où il s'agit de il s'agit pas de refuser la violence d'ACT UP, mais dans cette violence non physique et dans cette violence qui repose sur comment on perturbe l'ordre des choses, mais assez finement, on saisit mieux ce qu'est le ZAP. Et je terminerai sur une idée là que Nicolas exprimait tout à l'heure, mais c'est vrai que il y a un lien évidemment très fort entre le corps et la politique à ACT UP, pour toutes les raisons que Christophe et Philippe ont évoquées, c'est-à-dire la question de la pride, la question de la maladie, la question de la visibilité. Mais il y a aussi un lien très fort dans l'action publique, c'est-à-dire que c'est participer aux actions. Il n'y a jamais eu de division du travail. Il y a des divisions du travail, comme dans toute association, mais il n'y a pas de militants qui puissent se dire militant d'ACT UP, qui puisse se dire pleinement activiste sans participer au mode d'action. Il y a ceux qui aiment plus ou moins les faire, mais tous y participent, y compris même si c'est se faire une grande violence. Je pense à Didier. Enfin, il y a plein de gens qui exprimaient le fait que pour eux c'était extrêmement difficile et que ça le restait. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile au début et qui s'habituent, et il y a des gens pour qui ça le restait, et pourtant ils continuaient à y participer. Donc c'est pour ça que la réflexion qu'on nous a qui est maintenant longue comme l'histoire d'ACT UP, qui est de nous dire on est d'accord avec vous, on est d'accord avec ce que vous dites, mais pas avec vos modes d'action, ou pas avec vos manières de faire, pas avec vos manières de parler, c'est quelque chose d'irrecevable, et qui montre que enfin, la singularité d'ACT-UP, c'est d'avoir lié le fond et la forme et de refuser que ça soit disjoint. C'est-à-dire, ceux qui sont d'accord avec nous, c'est ceux qui sont d'accord avec nos manières d'être, nos manières de faire et nos modes d'action. Et ça permet, enfin, ça rejoint, je pense, un d'autres mouvements comme le mouvement féministe ou voilà, où l'usage du corps est aussi important. Mais il y a ce côté indissociable qui fait que le ZAP est à la fois la marque d'ACT-UP et une sorte de marque qu'on a utilisée vers l'extérieur comme pour faire de la communication, mais très intimement, ça renvoie effectivement à un rapport très intime qu'on noue au groupe par ces modes d'action.
On va passer à Emmanuel Cosse.
Mais moi, je vais faire beaucoup plus court. En fait, il y a juste deux choses pour ajouter aux interventions précédentes. Il y a deux choses qui me paraissent intéressantes. La première chose, c'est quand on parle de l'usage du corps. Là, on vous a parlé des actions, de comment gérer ça et tout ça. On n'a d'ailleurs pas trop parlé de la difficulté, mais enfin, parce que on parle que des bonnes choses, mais c'est aussi super dur. Hein. Enfin, on le dit pas tout le temps, mais c'est aussi une réalité que même dans les daïs, même qu'il y a des policiers qui vous demandent 5 fois de vous relever avant de vous ramasser, ils finissent toujours par vous donner des coups. Et puis parfois c'est vachement dur et on a super peur et on n'arrive pas à aller hurler dans une salle et on s'en va. Bon, mais il y a aussi beaucoup de joie parce qu'on a oublié des trucs, mais parfois aussi on s'est planté, ça a été dur. On a fait des actions, on était ridicules avec nos corps justement, mais il y en avait aussi. Bon. Et alors justement. C'est aussi ce qui a été très fort dans ACT-UP, qui est peut-être très dépassé, mais je pense que c'est important de revenir là-dessus. C'est que pendant longtemps, ACT-UP, et c'était lié à la situation thérapeutique, donc notamment avant l'arrivée des trithérapies, c'est que l'usage du corps dans ACT-UP, il se passait aussi après la mort. C'est-à-dire que... Et je dis d'autant plus que moi, en tant que séronégative, c'est quelque chose... Je suis arrivée à ACT-UP en 92, c'est justement quelque chose qui était... Après, je sais pas comment Philippe et Christophe en parleraient parce que vous avez par ailleurs écrit là-dessus à l'époque. Mais bon, il y a un numéro d'action qui date de 93, qui est un numéro où il y a 20 ou 25, je sais plus, séropositifs d'ACT-UP, hommes et femmes, qui disent ce qu'ils veulent qu'on fasse de leur corps. Nous, les séronèques, qui seront encore là quand ils seront morts et qu'on doit les utiliser dans des actions. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que à l'époque, c'est pas simplement parce que on a une idée comme ça qu'on veut le faire. Ça fait partie de l'action. Moi, je me rappelle d'un repas chez moi où, notamment, on a parlé de la capote sur l'obélisque. À l'époque, on voulait aussi mettre du faux sang dans la Seine et on se demandait comment on allait faire, bon et tout ça. Bon, bah, à la même discussion, il y a aussi des gens qui nous ont rappelé qu'il fallait pas qu'on oublie que quand ils seraient morts, on devait utiliser leur corps à des actions. Et bon, c'était évidemment extrêmement compliqué, mais on y a vraiment réfléchi. Notamment, je peux vous dire, j'ai eu des réunions avec les pompes funèbres pour savoir comment utiliser ces trucs-là. C'était voilà. Et bon, et puis évidemment, et donc il y a eu les cendres. Et la question, c'est qu'ACT-UP a enterré beaucoup de ses militants. Pas mal d'entre eux nous ont légué leurs cendres. Et je peux même vous dire que moi, je m'en rappellerai toujours à l'enterrement de Clouse. On s'est retrouvé avec les cendres et on s'est demandé si on pouvait prendre le métro avec ça, parce qu'on avait pensé à des milliards de choses, sauf à cette question idiote, qui est, est-ce qu'on peut prendre le métro avec une urne? Finalement, Christophe, je crois, t'as dit, vous allez prendre un taxi, parce que ça commence à bien faire. Bon, mais c'est des questions qu'on n'avait pas réalisées. Et moi, je peux vous dire, à côté des affaires juridiques, il y avait une armoire noire où il y avait des urnes, et qui étaient utilisées pour des, devaient être utilisées pour des actions. Moi, j'ai pas été à l'action, je crois que c'est Alain Valliane qui l'a utilisé, au moment de, c'était la question pour, enfin, ça a été utilisé notamment fin 95, début 96 sur la question de l'accès aux trithérapies, à l'époque où elles sont pas encore disponibles et où le Conseil national du SIDA propose qu'on fasse un tirage au sort des malades et tout ça. Bon, et Alain, il a été une action, il a acheté des cendres d'amis à lui. Je veux dire, en plus, c'est pas des cendres comme ça. Je sais qu'après, on a fait d'autres actions, on a fait des fausses cendres. Mais là, les cendres qu'on avait, c'était des gens qui étaient nos amis. Donc... on avait les urnes, je peux même vous dire qu'il y a des gens qui allaient les voir parfois, les urnes locales, et après, et pour nous assurer qu'on allait bien les utiliser. Et c'est ça aussi l'usage du corps dans ACT-UP, c'est que c'était pas un usage qui s'arrêtait voilà, avec le décès d'une personne, et qu'on était nous légataires de ça. Quand je dis nous, c'est les séronégatifs, parce qu'il était supposé à l'époque qu'on survivrait à nos amis séropos. Enfin, c'est ce qu'on nous disait à l'époque. C'est comme ça, en tout cas, que je le prenais. Et moi, c'est vrai que j'avais ça à gérer, c'était un peu compliqué. Mais il est, enfin, c'est vrai que ça n'existe plus ça aujourd'hui, mais ça a été une question très forte. Et je pense qu'elle est aussi importante que dans ACT UP, la discussion sur l'usage du corps, il était aussi de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de moi quand j'allais mourir, qu'est-ce qu'on allait faire de mon corps. Clouse, il rêvait d'un truc, c'est qu'on jette son cercueil et son corps dans les jardins de l'Élysée, je peux vous le dire, il l'a écrit, il nous l'a fait dire, il m'a fait faire des plans, il a fallu que je lui explique qu'on n'y arriverait pas, on l'a pas fait, mais enfin, je veux dire... Ça a été loin. Et si vous regardez, il y a des images d'ACT UP New York de 92 où il y a qui sont vachement connues, où ils jettent des cendres dans le jardin de la Maison Blanche. Et Clouse voulait absolument qu'on fasse ça, lui avec son cercueil, pas avec ses cendres. Bon, mais enfin, c'était des vraies discussions. Ça faisait partie de nos discussions. Ça, c'est la première chose. Une seconde chose qui n'a rien à voir, mais bon, je fais un grand saut, mais c'est pas grave. Il se trouve que j'ai été présidente d'ACT UP en 99 et que j'ai été la première présidente. Femme, séronégatif, hétérosexuel. Bon, fait beaucoup pour une association de séropositifs homosexuels en majorité. Et une grande discussion qu'on a eue de l'époque, notamment avec Victoire, qui est par ailleurs après devenue présidente, mais c'était une situation compliquée à l'époque. Victoire m'avait fait, je crois que là, c'est la seule remarque d'ailleurs qui m'avait peut-être fait douter qu'il fallait que je le fasse, c'était, si tu deviens présidente, on perd une arme qui est que tout le monde saura que tu n'es pas séropositive, enfin, que tu perds l'arme de ton corps de séropositif. Puisque jusqu'à temps que... Comment dire jusque-là, tous les militants d'ACT UP dans la sphère publique de la manifestation, on est considérés comme des séropositifs. Pour le public, pour nos ennemis, pour tous les gens avec qui on parle, quand on manifeste, c'est des militants d'ACT UP, ils ont le sida, ils sont malades. D'ailleurs, c'est comme ça que vous disiez des flics. Christophe, tu te rappelles, un flic avait dit « Ah, tu les touches pas, ils ont le sida ». Tu l'as entendu il y a seulement un an aussi, c'était ça. Mais moi, je me rappelle d'actions où on ne nous touchait pas, on mettait des gants. Enfin bon, et encore récemment, hein, ça a duré longtemps. Et c'est vrai que l'autre question, c'est donc même si dans ACT UP, il y avait des séronégatifs, des séropositifs, des homosexuels, des hétéros, des hommes, des femmes... Quand on était en train de manifester, on était cette masse uniforme d'ACT UP, de corps malades. Et c'est vrai que très souvent, on s'est fait autant insulter en tant que, parce qu'on était militant d'ACT UP. On disait vous avez le sida, vous êtes malade. On voyait bien dans les rapports de force avec les flics ou même dans les, parfois avec le personnel des ministères, que pour eux c'était une globalité. La question, c'est qu'à un moment, moi je me retrouve à être présidente d'ACT UP et je peux pas dire que je suis séropositive parce que tout le monde sait que je suis séronégative. Donc ça paraît évident qu'il faut dire que les choses changent. Mais donc aussi la visibilité, elle change, et notamment l'identité. Et elle joue aussi dans les actions, c'est-à-dire que d'un seul coup, on a pu craindre, et je pense qu'on a pu craindre, c'était normal de le craindre, que ça nous fasse perdre une arme et que... Aussi, dans la manif, on perd de la force parce que des gens pouvaient se dire « Ah oui, mais tu vois, dans ce groupe-là, il y a des séropos, mais pas seulement, et tout ça. » Bon, finalement, a posteriori, je crois pas que ça nous a fait perdre des choses. On en a plutôt gagné parce que, justement, on a aussi montré que l'usage du corps et les identités qui y sont liées, elles sont totalement multiples et que l'idée, c'est comment on joue avec ça et tout en ne parlant jamais à la place d'eux, parce que c'est ça aussi qui est important. Et de toujours préciser d'où on parle et qui on est. Mais c'est vrai que ça a été une vraie crainte et qu'elle a pu poser des questions. Alors pas dans les actions globales. Mais par exemple, moi je me rappelle de Zap en 94 avec Mathieu Duplay justement, Christophe vous a montré tout à l'heure. On a zappé François Bayrou, alors ministre de l'Éducation nationale. Mais on est en 94 dans un contexte extrêmement difficile, 8000 morts par an, 2 molécules disponibles. On va à cette action. Pour François Bayrou, des militants d'ACT UP, ce sont des malades. Ils vont mourir. On est des séropositifs, alors que tous les deux, nous n'avions absolument pas les stigmates de la maladie qu'il y avait quand même à ACT UP. Il faut le dire aussi que les stigmates sont très forts à l'époque. Mais c'est vrai que François Bayrou, rien que de nous recevoir, pour lui, c'est déjà un truc... Non, mais il faut être clair. C'était... il n'a même pas pu imaginer que des séronégatifs pouvaient être à ACT UP et tout ça. Donc... Nous aussi, il faut le dire, on a vachement joué de ça. On a énormément joué de ça. Et quand Philippe parlait tout à l'heure des corps malades qui étaient en action, on dénonçait le déni dans lequel on était, mais il faut aussi dire que ça nous a servi parfois que les gens aient peur de nous en tant que malades du sida, parce que ça nous a aussi sauvés, je peux vous le dire, de violence. Vraiment, ce qu'on a pris très peu de coups dans notre histoire de militant à ACT UP. On en a pris beaucoup ailleurs, mais pas en tant que militant d'ACT UP. Mais aussi, on a beaucoup joué de cette peur. Bon, mais c'est vrai que 5 ans plus tard, vous êtes président d'ACT UP, vous refaites une action dans un même truc, dans un ministère à deux. Mais là, vous rentrez, vous ouvrez la porte, déjà, vous faites plus peur. Bon, en plus, c'est pas le même ministre de la Santé, c'est la débile, là. Tu vois? Gillot, Dominique Gillot. Donc là, vous, elle connaît rien, vous lui faites pas peur, mais en plus, de toute façon, elle sait que vous n'êtes pas à ses repos. Donc, vous perdez un truc quand même. Donc, ça n'a pas toujours été si simple. Après, on a trouvé d'autres moyens pour faire ça. Puis, il y a eu d'autres séronégatifs qui ont été présidents d'ACT UP après moi, et voilà. Mais bon, voilà, c'était deux choses comme ça qui me paraissaient importantes à ajouter. Voilà.
J'oublierai de le dire après, donc je vais le dire maintenant. Non, il faut savoir qu'en tant que séropo, enfin moi je suis séropo depuis un petit moment, 84, non mais c'est bien de le dire aussi, parce que c'est vrai qu'on on a tendance à plus trop en parler. Et Philippe en a parlé, mais cette force qu'avait ACT UP et cette force que ça nous donnait, enfin, faut juste imaginer de l'état des corps, l'état des physiques des gens, l'état, le fait qu'on n'avait plus envie de faire l'amour, qu'on n'avait pas forcément, enfin, les gens n'avaient plus envie de faire l'amour avec nous, que on se sentait donc plus désirable, qu'on s'en était, on ne désirait plus, que on était fatigué, que moi je me souviens que ma mère qui est quand même un peu plus, qui est plus vieille que moi forcément, et ben, enfin, on faisait des musées, j'étais crevé quoi, j'en pouvais plus, elle avait cette énergie que moi j'avais totalement perdue. J'avais 30 ans de moins qu'elle et c'était moi la vieille femme, quoi. C'était fou. Et vous faites une action, votre corps est vraiment là pour le coup, comme le disait Victoire, quoi. C'est vos mains, vous êtes là, c'est vos cris, c'est tout votre corps qui agit et vous obtenez des choses. Et ça, je peux vous dire que ça donne quand même un sentiment de puissance et d'empowerment et de fierté, effectivement, que seul ACT UP a pu donner. Moi, j'ai toujours dit, et je persiste à penser, qu'ACT UP est le meilleur antirétroviral qui a été mis sur le marché. Mais oui, mais voilà. Et bon, malheureusement, il y a beaucoup de militants d'ACT UP, faut quand même le dire aussi, qui sont morts. Et justement, Clouse est mort en 94. Et l'année suivante, on avait fait, un an après sa mort, un communiqué pour signaler qu'il y avait quand même 100 militants d'ACT UP qui étaient morts depuis la mort de Clouse, c'est-à-dire en un an. Donc vous imaginez juste que, de toute façon, on n'avait pas le choix. C'était ça, c'était vraiment marche ou crève, et c'était, pour le coup, c'était marche ou crève, quoi. Voilà.
Bon, alors moi, ce qui me frappe là dans vos quatre interventions, c'est le bonheur et l'émotion que vous avez à parler d'ACT UP, alors que vous venez, enfin Victoire et Philippe, vous venez pas souvent, mais c'est, il y a vraiment de l'amour, quoi. C'est assez extraordinaire quand même. Ouais, non mais c'est assez merveilleux, quoi. C'est extraordinaire, quoi, la force de ce mouvement quand même. Bon, alors moi je vais vous parler, donc je vais moi être moins dans le moins parler d'ACT UP et de l'histoire de l'actuelle présidente, la première présidente séropositive, femme séropositive, donc hétérosexuelle, femme séropositive, voilà. Il faut toutes les définitions. Je milite à ACT UP depuis 97 environ. Donc, je vais vous parler plus des problèmes des séropositives et séropositifs aujourd'hui, de sexualité. J'ai choisi, donc, et tout ce que ça induit avec le bareback et la pénalisation. Donc, j'ai choisi pour introduire le sujet un film qui a 20 ans d'un artiste new-yorkais qui était militant à ACT UP New York, David Wojnarowicz. Vix, oui. Qui est mort en 92. Et donc, c'est un film qui a 20 ans et où il y a. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne meurt plus du sida. Enfin, il y a encore quelques morts, mais enfin bon, on est quand même en bonne santé. Mais sinon, tout le reste. Oui, avec traitement, évidemment. Mais tout le reste, c'est. Oui. Oui, oui. Oui, oui, non, évidemment. Oui, oui, oui. Non, mais donc. Tout le reste de tout son cri, enfin vous allez voir.
Juste une info sur le film en question, il s'agit d'une performance qui après,
oui, il s'agit d'une performance qu'il avait faite en 89 et qui après sa mort a été remontée par une de ses amies qui s'appelle Marion Semama. Et avec des images qu'il avait produites par ailleurs. Voilà. Donc le film lui-même est un film, enfin c'est un extrait en tous les cas de sa performance, mais c'est un film post-mortem et qui a été remonté conformément d'ailleurs à ce qu'il souhaitait.
rapport de goût, c'est extraordinaire. Chaque question.
Ah, j'ai un petit problème de son, Manuel.
Et puis, t'as raté le début. Vous
l'avez vu déjà. T'es à la
fin. Yes.
Because they're in connection, and this will be done with responsibility and need, and this will be done with a deeper understanding. Last night I took a man home from the subway where he'd been standing against the wall in a graffiti-covered car in black cowboy boots, tight jeans, and a shirt open to the third button, and sleeves rolled up to reveal a workman's arms and a couple of blue ink tattoos. And when we arrived back at my place, I sat on my bed and loosened his pants with my teeth while pulling apart each button on his shirt with my fingers. And I slid my hands beneath the edge of his t-shirt and let my palms slide over his hard and warm belly. And as his t-shirt rode up my arms without motion, there were two birds revealed, tattooed in blue ink and flying the distances of his chest. And my tongue moved back and forth, tracing wet lines across his belly, and I slowly stood up and moved my tongue over his pale sides as I lifted his t-shirt above his head, and I could feel the smell of his underarms as my face rose up towards him, my tongue taking in the taste. And then he laid me down on the bed and removed my shoes and pants while I played with his hard dick through his pants, and he bent and licked the insides of my legs and thighs and under my balls, and then laid on top of me, pulling my arms up and around his neck. And he kissed behind my ears and licked across my throat and across my face and down the bridge of my nose to my mouth where he put his warm tongue in. And I got the secondary stages of AIDS, and the man on the TV who looks like he's got a potato for a head is telling me and the rest of the country that I must suppress my sexuality. He talks about me in words that make me sound like an insect carrier infected. And when he shows pictures of me, I'm always bedridden and alone on the edge of death. And he says I must suppress my sexuality, whether I'm a man or a woman, whether I'm a homosexual or a heterosexual, whether I got AIDS or not. And he says that since condoms are not 100% effective, I must not fuck, and I must not suck, and I cannot caress, and I cannot have desires or fantasies. And each media description from his uninformed lips is that I'm a walking death, a walking receptacle containing skulls and horrible illnesses and disease and cancer and death. And he refers to me as nothing more than a disease on two legs and a killer dick which burn like bullets. And he tells you that I'm on a mission of destruction because I insist on being regarded as a human being that has the need to explore sexuality. And he tells you that I'm on a secret mission to infect the entire world. The man on the TV is the man in the newspapers. He's got a replaceable head. One day he can be a man, another day he can be a woman. He can have the face of a politician, or the face of a doctor, or the face of a research scientist, or the face of a healthcare professional, and the face of a priest with a swastika tattooed on his heart. And each and every one of these faces say they are concerned for you because of my existence. And it's fucking ironic, but he takes on the face of a family man who wants to protect his children, because I am his child, and I got AIDS, and I don't think AIDS is something heavy. It's the use of AIDS as a weapon to enforce the conservative agenda. That's what's heavy. Homosexuals or intermediate drug users are expendable to society, and AIDS is treated the same way that homosexuals and drug users are. And that's why there's been a legal and social murder on a daily basis for 8 long years. And in the face of this, in the face of all this, I'll continue to explore my body and the bodies of other men and find the possibilities for pleasure and connection. And this will be done with responsibility and need. And this will be done with a deeper understanding of touch and fantasy and areas of pleasure I'm still to reach. And I will not be silent about this. And I'll not crawl into a media grave and die quiet. I'll not be polite and die like a martyr to make your fucking experience of my social death a quiet and polite thing. I'll celebrate my sexual expression, and I'll celebrate the sexual expression of people who've been murdered by this government and the drug companies who care more about profit than life, and I'll resist your corrupt intentions of silencing me or castrating me with your lying media, politics, and religion. And if I have to fuck with a gun by my side, I'll do that. And I'll organize and speak loudly and endlessly and with a smile on my fucking face and pleasure in my mind and body and with no guilt. No guilt, no guilt, despite the pressures of the manufactured world.
On remet la lumière.
C'est incroyable.
Donc voilà, moi j'ai découvert ce film il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, quand Philippe l'avait projeté à Beaubourg lors d'une conférence que tu faisais sur le sida. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable et tellement. Moi, c'est. Bon, je vais plus parler de moi, mais c'est là où ACT UP a un rôle, c'est justement de pas avoir honte, quoi. Et ça, c'est la force d'ACT UP. Et moi, je comprends pas que tous les séropositifs et les séropositives, elles viennent pas à ACT UP, quoi. Non, mais ça, j'ai jamais compris. Parce que c'est le seul moyen de s'en sortir, quoi. Parce que c'est vrai, c'est quand même extrêmement violent ce qu'on vit au quotidien, quoi. Et donc, par rapport à la sexualité, moi, je suis contaminée depuis très longtemps. Et j'ai tout de suite compris, quand même, assez rapidement, que le seul truc qui était. Quand même extrêmement compliqué, je crois, pour la vie, c'est la sexualité. Quoi. Et il faut arriver à faire avec. Quoi. Parce que les traitements, les machins, la maladie, on s'y habitue, les médecins, tout ça, mais la sexualité, c'est le rapport à l'autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc 20 ans après ce film, en 2008, on en est toujours au même point que dans la tête des gens, enfin de Wojnarowicz, il dit les conservateurs, mais moi j'irais plus loin, je dirais la majorité dominante, même de gauche, c'est-à-dire les hétérosexuels séronégatifs, hein, pas ceux qui militent à ACT UP, hein, mais tous les autres, ben pour eux, je pense que les séropositifs n'ont pas le droit de baiser, quoi. Et je pense, c'est chez les hétéros, c'est impensable pour eux qui est un séropo ou une séropo dans leur lit, quoi. C'est un truc qui leur traverse même pas l'esprit. Et du coup, on se retrouve quand même donc avec deux réactions face à ça. Donc qui est dans le milieu gay, il y a le bareback, mais qui commence maintenant chez les nanas. Hein. Il y a donc des filles hétéros qui commencent à organiser des soirées privées, donc de bareback. On veut du sperme partout, du sperme dans tous les trous, pas capote et tout. Bon, et voilà, c'est parti. Donc ça, c'est quand même une réaction à la discrimination des séropos, qu'on ne veut pas baiser avec les séropos quand même. Et la deuxième conséquence de la discrimination, c'est la pénalisation, qui aujourd'hui, ça existe dans le monde entier, mais plus particulièrement en France, c'est les couples hétérosexuels qui portent plainte. Et ça veut dire que c'est une maladie qui les concerne pas, quoi. Donc pour l'instant, c'était des femmes qui portaient plainte contre des hommes, mais maintenant ça y est, ça s'inverse, des hommes portent plainte contre des femmes. Là, il y a le premier procès d'assises qui ouvre.
Après avoir été contaminé.
Oui. Mais premier procès d'assises, parce que la femme était mariée. Et donc le mari a porté plainte qui ouvre le 1er décembre en plus. Oui, à Orléans, la cour d'Orléans. Elle risque 15 ans. Donc... Alors, moi, là, je vais vous raconter une petite histoire. C'est hallucinant parce qu'on en est toujours au même point. Alors, je vais vous raconter là, moi, j'aime bien parler de moi. Et puis, moi, je fais de la politique à la première personne. Donc là, je vais vous raconter une petite histoire. Bon, c'est une parmi d'autres, mais parce que moi, j'aime bien le sexe. Et puis, je suis une femme émancipée. Je peux m'identifier très bien au PD, puisque je couche avec des garçons. Et puis, j'ai été au Palace dans les années 80. Donc, j'ai aucun problème.
Donc, c'est pas croisé,
mais enfin, bon, disons qu'on aurait pu. Moi, on s'est peut-être croisé. Mais oui, certainement. Donc voilà. Donc moi je drague sur Internet et donc l'année dernière j'ai dragué un mec sur Internet. Donc j'ai passé quelques heures chez lui. Donc c'est quand même des relations entre parenthèses où on ne parle pas de sa réalité. On vient là pour baiser. C'est bien, c'est pas bien, c'est bon. Donc on va pas arriver avec son sida, ses médicaments, son RMI et tous ses problèmes, quoi. Donc ça me paraît une évidence qu'on ne le dit pas. Et par ailleurs, donc c'était tellement bien que le lendemain, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Donc, et je lui ai envoyé un petit mail en lui disant je préfère quand même te dire, parce que bon, j'ai pas à avoir honte en même temps. Et voilà, je préfère te dire, je suis séropositive, voilà. Et alors j'ai eu sa petite réponse, bon, qui n'est pas effarante, mais qui quand même qui démontre la confusion et l'incohérence que ça génère dans l'esprit d'un hétéro. Socialement quand même assez élevé, professeur de sociologie à Nanterre.
Je ne connais même pas son nom de famille, mais mais bon. Ce qui veut dire quand même. Donc sa petite réponse. Alors il me dit quand même. Je ne suis pas idiot. J'ai bien vu que tu étais habité par un problème vital. C'était une des hypothèses que j'avais faites. Bon, ceci dit, il avait donc déjà c'est très sympa. Bon, et mais en même temps, il n'avait pas proposé de capote. Alors, donc, si j'avais pas proposé de capote, bon, il n'a pas dit non, heureusement quand même, parce que moi, je... oui, mais il en avait pas proposé. Non, mais alors donc, il voit que je suis habité par un problème vital. Il suppose que j'ai le sida, mais il ne propose pas de capote. Bon, déjà, bon, même Abel, ce genre de choses, ça se dit avant et pas après. Cela n'aurait rien changé de mon côté. Bon. Alors, oui. Pourquoi il a besoin de savoir avant si ça ne change rien de son côté, quoi. C'est... Voilà. Merci de m'avoir protégé. Non, mais... Alors, le merci de m'avoir protégé. Là, non, mais... Là, on se dit quand même... On rêve, quoi. Les mecs... Non, mais... Moi, je suis quand même hallucinée par... Je sais pas ce qu'on fait par rapport à ça. Donc, dans le milieu... On ne couche pas avec ce chanteur. Mais on ne couche pas. Mais on couche avec personne si on dit qu'on est séropo, Emmanuel. On couche avec personne. Non, mais c'est pour les femmes hétéros. Bon, chez les gays, c'est un peu... Enfin, c'est... Bon, c'est plus toléré, mais bon, j'entends quand même... Là, je commence à m'occuper pas mal de prévention et de... J'entends quand même des retours que le y a quand même un refus de baiser avec les séropos, même chez les gays. Alors, chez les hétéros, si t'arrives en disant... Alors, soit le mec tombe amoureux de toi parce que t'es séropos, bon, ça, c'est autre chose. Non, mais c'est ça. Il peut y avoir ce... Bon, mais alors, dans... Si tu veux, le... Je sais pas ce qu'on peut. Enfin, on ne peut rien faire, quoi, par rapport à ça. Quoi. C'est quand même le truc qui va rester. Je sais pas. Quoi. Enfin, et alors, quand je vois les gens qui se contaminent aujourd'hui volontairement, les barbecueurs, ils se rendent absolument pas compte vers quoi ils vont, quoi. Vers une sécurité qui va quand même être entravée toute leur vie, qui va être super compliquée. Donc, je suis quand même assez, enfin assez catastrophée par rapport à ça. Et donc, bon, sinon, à part ça, non, par rapport à ACT UP, c'est vrai. Moi, je me dis la fierté, disons, parce que avoir honte, ne pas le dire, les femmes n'arrivent pas à imposer une capote aux hommes, il y a tout un truc extrêmement compliqué dans les rapports sociaux de sexe et tout ça, ça qu'on connaît par cœur, enfin, quand on a travaillé un peu sur les femmes et le sida. Mais les gays, ces séropos aujourd'hui, comment ils vivent leur sexualité? Alors, soit ils deviennent barbecueurs, enfin, moi, je comprends pas ce qu'ils...
Je crois deux gays séropos.
Je ne suis pas barbecue.
On va pas faire de généralité,
non. Et donc à ACT UP, on a encore vraiment une raison de vraiment, je sais pas, il faut vraiment qu'on se batte contre le barbecue et contre la pénalisation. Alors,
parce qu'il y a peut-être des gens ici pour qui le mot barbecue est un mot compliqué. Le barbecue,
ça... Oui, prends le micro, tiens.
Le barbecue, ça consiste à manifester une préférence sexuelle pour une préférence pour le sexe non protégé. Voilà. Donc, manifester une préférence pour le sexe non protégé et baiser sans capote en substance. Mais ça veut dire aussi draguer en signalant qu'on baisera sans capote parce que c'est mieux. Voilà. Donc, c'est juste pour dire ça. Il y a en effet, depuis un certain nombre d'années, en gros, depuis l'arrivée des trithérapies, ça a commencé avant, en fait. Ça a commencé très, très tôt, en fait. Très, très vite après l'arrivée des trithérapies. Ça a d'abord été un mouvement de gens qui renonçaient à la capote. Et puis qui s'est... sinon organisé, en tous les cas, il y a une qui a organisé sa signalétique pour draguer, etc. Ses soirées, etc., ouais. etc. Toutes choses qui sont assez inquiétantes. Oui. Voilà.
Ah oui, la Gay Pride 98. Oui, oui. Ouais. Et oui, non, mais c'est aujourd'hui. Oui, non, très tôt, quoi.
Ouais. Et c'est une conséquence de la. Mais enfin, je défends pas du tout le berbac, mais j'essaye de comprendre le berbac. Hein. Je pense que le berbac est une conséquence quand même du rejet sexuel des séropositifs, quoi. C'est maintenant, on vous emmerde. C'est une attitude complètement subversive. Hein. Bon, je défends pas le berbac en essayant de le comprendre. Hein. Moi, je l'analyse comme ça. Une attitude totalement subversive. On a le sida, on vous emmerde. Vous voulez pas baiser avec nous, on met pas de capote, quoi. Et c'est ça qui est catastrophique, quoi. C'est...
Oui, parce qu'il y a eu il y a eu d'abord le relapse. Si on veut rentrer dans les détails, il y a eu le relapse. C'est-à-dire, effectivement, le relapse, c'est un mot anglais, ou c'est une espèce de fatigue, ce qu'on a appelé la prevention fatigue ou condom fatigue. Les gens avaient marre, effectivement, de la capote. Moi, je me souviens, on avait entamé un débat en 96 au retour de Vancouver. Faut savoir quand même qu'à Vancouver, ce que nous a montré David Ho, et tout le monde était là, genre, les bras ballants et conférence sur le sida. Voilà. Et David Ho, qui devient après le monsieur de l'année de Time, mais on a vu depuis on aurait mieux fait de choisir quelqu'un d'autre, nous annonce que, effectivement, grâce au traitement puissant, la fameuse baignoire, il avait fait une espèce d'analogie avec une baignoire qui se remplissait, qui se vidait en même temps, enfin bref, la baignoire allait totalement se vider, qu'on allait éradiquer le virus. En 6 mois, enfin il s'était donné 6 mois. Après il a augmenté à 18 mois, après il a augmenté, bon. Et moi j'avais cette discussion avec un gay américain qui disait c'est génial, dans 6 mois j'abandonne la capote et dans un an je suis guéri. Et je reviens de Vancouver, j'en parle, je me souviens avec Philippe, on en parle même en RH, parce que moi je pensais que j'allais mourir, j'avais à l'époque 44, et on me dit que non seulement je vais vivre et qu'en plus il faut revoir tout le truc, le safer sex, la vie, tout ça. Non, je suis pas programmé, changer de disque dur, excusez-moi, ça ne me va pas du tout. Et je crois que c'est ça, il y a eu cette espèce d'énorme espoir d'éradication. Après, par-dessus, il y a eu les tests de charge virale, l'indétectabilité, le virus qu'on ne voit plus. Beaucoup ont mélangé tout ça avec effectivement cette envie d'en finir un petit peu avec la capote, ou en tout cas ce truc, la capote c'est dur et tout ça. Moi, je n'ai jamais trouvé ça dur. Mon mari est séropos, on met la capote, même si on est séropos et qu'on risque rien, parce que je trouve que c'est plus simple et tout ça. Mais voilà, il y a eu tout un discours comme ça sur la difficulté et tout ça se mélangeait, c'est arrivé au relapse, il y a eu après le berbac, et le berbac qui était monté à cru, qui était je baisse en capote, est devenu aussi non seulement je baisse en capote mais je vais faire en sorte de savoir avec qui je vais baiser, et par exemple je vais aussi du coup baiser avec des séronègues pour faire en sorte de les contaminer, et à l'inverse moi séronègue je vais faire du berbac pour me faire contaminer. Enfin, il y avait cette démarche ultime qui était de rechercher le alors je sais plus, il y avait des expressions là-dessus, de se faire the gift, voilà, c'était the gift qui voulait dire tu me donnes ton virus, quoi, voilà. On a un peu débordé du corps, mais c'est toujours le corps quand même.
Non, mais donc vous... Oui, il faut peut-être. Oui, est-ce que. Oui, moi j'ai. Oui, non, moi j'ai pas grand chose à dire, moi. Non.
Ouais, alors, en fait, on a commencé un peu tard, donc il n'y aura pas 36 000 questions non plus, et je vais commencer déjà par moi, avant de passer à la salle, donc vous avez le temps d'y réfléchir. Surtout adressé à Philippe, puisqu'il se... En fait, moi, je trouvais ça intéressant. J'ai programmé cette carte blanche avec Annie, et on trouvait ça intéressant de faire venir plusieurs ex-présidents et présidents actuels d'Acte Paris, dans le sens où il est évident que le visage de la lutte contre le sida a changé depuis les dernières années, y compris depuis l'arrivée des trithérapies, y compris depuis l'arrivée aussi de la répression de l'activisme, les judiciarisations à tout va, et ça implique aussi la pénalisation des séropos, mais aussi la pénalisation de l'activisme en soi. Donc, je sais pas, tu semblais dire que c'était pas forcément pertinent de faire venir plusieurs présidents. Donc je voulais avoir ton avis là-dessus, sur...
Non, on est content de se voir.
Non, mais on est d'accord qu'on est content de se voir, mais...
Non, mon avis portait juste sur la notion de président, quoi. C'est là il y avait en effet plusieurs choix possibles, c'est pas du tout un reproche, c'est... je me suis posé la question de savoir, par exemple, si ça avait un sens que je vienne, non pas parce que ACT UP ne compte plus sur pour moi, mais parce qu'il y a des gens qui sont infiniment plus actifs et plus militants que moi à ACT UP, que je le suis aujourd'hui. Je vais aux manifestations, mais je ne participe plus aux actions. Voilà, ma petite intervention était presque une intervention historique, en forme de souvenir. La vitalité d'ACT UP, elle est avec vous, elle est avec Marjolaine, bien plus qu'elle est de mon côté. À part ça, oui, ça fait super plaisir de revoir les photos et je suis très très content. Et voilà. Et par ailleurs, je pense que ce que j'ai raconté tout à l'heure et qui renvoie au geste inaugural d'ACT UP est quelque chose qui tient encore, pleinement la route et qui reste pleinement d'actualité. C'est vrai que c'est troublant. Enfin, je pense que, mais ça, on peut en parler. Le SIDA, l'expérience du SIDA a fondamentalement changé. Le militantisme SIDA a fondamentalement changé. Ça ne veut pas dire que les problèmes ont disparu. Il y a des problèmes qui sont restés tels quels, puis il y a des problèmes qui sont apparus. Cette question, par exemple, de la pénalisation de la contamination est une question qui très tôt s'est mise à traîner. Hein. Un certain nombre, on a participé comme ça à un certain nombre d'actions, alors même que 91, c'est-à-dire que c'est le moment de la refonte du code pénal, de la réécriture du code pénal, et la transmission volontaire du virus peut faire l'objet d'une incrimination spécifique dans un des projets de rédaction du code pénal. Et nous avons dû nous mobiliser particulièrement sur cette question-là pour des raisons qui sont en fait très faciles à expliquer, indépendamment du fait que moralement transmettre volontairement le virus est une catastrophe. Il s'agissait de rappeler que, contrairement à ce que l'amant idiot de Marjolaine disait, on n'est pas protégé par l'autre, on se protège soi-même et se protégeant soi-même on protège l'autre. Enfin, il y a une réciprocité qui n'est pas pensée dès lors qu'on commence à considérer qu'il y a un fauteur, un responsable de la contamination et il y a une victime de la contamination. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pénaliser la contamination du virus, la transmission du virus, c'était une catastrophe en termes de dépistage. Puisque on avait dans ces conditions tout intérêt à ne pas savoir qu'on était porteur du virus. Or, la meilleure façon de se soigner, même si c'était déjà une époque, c'était encore une époque où on n'avait pas beaucoup de possibilités pour se soigner, mais la meilleure façon de se soigner, ça reste encore de savoir déjà qu'on est séropositif, et donc d'entrer dans un travail de suivi médical et de surveillance médicale qui fait qu'à la moindre merde, on peut être traité. Bref, la pénalisation du virus était une catastrophe en termes thérapeutiques et également en termes de prévention. Pénalisation de la transmission, pardonnez-moi, je suis un peu fatigué. Or, c'est vrai que cette question qu'on avait pensé avoir vue réglée a ressurgi pour les raisons qu'a dites Christophe et qu'avait rappelé auparavant Marjolaine, a ressurgi sur le tard. Maintenant, c'est vrai aussi que le contexte n'est pas exactement le même et que lutter contre ces tendances-là peut plus se faire exactement de la même façon. Il faudrait plus qu'une soirée pour essayer de réfléchir à la façon dont la lutte contre le SIDA a été redéfinie en quelque sorte, dont un certain nombre d'outils qui avaient été ceux qu'on avait contribué à forger fonctionnent encore, d'autres fonctionnent moins, d'autres problèmes nouveaux ont surgi, d'autres exigent qu'on les envisage différemment parce que le contexte est différent, oui, c'est intéressant de ce point de vue-là. Je ne sais pas dans quelle mesure, enfin, on a juste effleuré cette question, mais à part ça, je suis très content d'être là et voilà.
Michael Quilio.
Moi, j'ai plus envie d'apporter une remarque en forme de complément au discours qu'a évoqué Victoire tout à l'heure, c'est parce que la carte blanche porte sur les corps. Tout à l'heure, au niveau des apps, tu expliquais qu'il y avait cette difficulté à lever les militants d'ACT UP lors d'un die-in. Dans les images qui ont été projetées, alors je crois que c'est Christophe qui les a projetées, on voit des images sur le ministère de la Santé. C'était il y a un an et demi, et les flics autour, enfin les CRS, étaient très contents de pouvoir tester leur nouvelle technique de portage contre les militants qui s'allongent au sol, parce que dans leur formation, maintenant, ils ont donc un module pour savoir comment appréhender, et donc ils étaient tout contents de passer autour de nous. Et leur nouvelle technique, elle est relativement simple, inspirée donc des personnes qui sont en prison, c'est de prendre le militant qui est allongé sur le dos, de le chaque côté à deux, et de le basculer vers l'avant, donc sans le blesser, pour apporter en fait le militant dans cette position-là jusqu'au fourgon. Et c'était juste pour parce que ça m'avait fait sourire l'année dernière lors de ce zap-là. Mais tout à l'heure, quand tu évoquais comment on dérangeait même les forces de l'ordre, ça m'a fait réfléchir à cette adaptation que eux ont eue dans leur formation. Donc par rapport à des militants qui s'allongent au sol. Donc on doit faire partie maintenant quelque part, je sais pas où, des modules de formation auprès des CRS pour savoir comment appréhender les corps. Alors je sais pas si c'est les corps malades, mais en tout cas les corps allongés au sol et sur le dos. Voilà.
Si je peux rajouter quelque chose, moi j'avais été hyper frappé entre 95 et 96, c'est la grande mobilisation sur justement les sans-papiers. ACT UP se battait avec d'autres associations, notamment Solancy, pour obtenir l'inexpulsabilité des malades du sida, puisqu'ils étaient condamnés à une mort certaine dans le pays où on les renvoyait. Et ça valait pour tous les malades. Hein. Il y a un truc qu'on n'a pas dit parce que là c'est sur le corps, mais ACT UP s'est toujours battu pour tous les malades et pour que les choses qu'on demandait pour les malades du sida soient appliquées à d'autres pathologies. Ça c'est super important de le dire. C'est en ça que c'était un peu français. C'était moins communautaire ou communautariste, si on voulait utiliser le mot dans le côté péjoratif. Non, c'était au contraire, améliorons la santé pour tous, même si c'était pas ce qu'on exprimait. Mais en tout cas, quand une loi venait, c'était pas pour dire c'est une loi pour les séropos, c'est une loi pour tous les malades. Et on était notamment, on était amené à très tôt le matin aller dans les aéroports, bloquer des avions. Pour empêcher l'expulsion d'une ou d'un malade du sida. Et c'est la première fois où ça m'a super frappé, justement, c'est que je pense que les polices d'aéroport sont beaucoup plus strictes que les autres, et on était devant la douane, enfin le passage de douane, et là vraiment on était mais jetés comme des énormes paquets on voulait dégager donc cette douane, et on nous jetait comme ça, et je me souviens là pour le coup avoir presque été violent envers un flic, parce que c'était Stéphane qui était très malade à l'époque et qu'on avait comme ça mais jeté quoi, et ça m'avait c'est pour vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi quelques mois après aussi d'action j'étais très énervé.
Mais pour compléter, Mickaël, Victoire disait ça fait longtemps qu'on est dans les trucs des flics, mais c'est vrai. Je veux dire qu'on a posé des ACT UP a posé des problèmes aux policiers, notamment à Paris, dans l'action publique très vite. Mais en même temps, il y a aussi eu très vite des bruits sur ACT UP qui étaient ils sont malades, ils sont non violents. Et je peux vous dire que les bruits, je peux vous dire parce que quand on travaillait ensemble avec Christophe il y a 2 ans, on a été tous les deux à une manif. Et il faut dire que les bruits continuent parce que il y a un flic qui c'était quoi, il y avait un zap d'ACT UP. Et il y avait un flic qui disait à un autre flic comment tu vas reconnaître les militants d'ACT UP. Mais c'est simple, ils sont malades et ils sont maigres. En 2006, on a entendu ça. Mais si je dis ça, c'est que c'est aussi vrai que l'usage du corps des militants d'ACT UP de cette manière-là, qui est pas dans l'affrontement habituel à gauche, cet usage-là, il a obligé aussi les forces de l'ordre à réfléchir autrement. Et ça a été extrêmement compliqué, mais ils ont vraiment dû revoir un certain nombre de trucs de fonctionnement et aussi leur confrontation avec les militants, parce que ça les emmerdait de fracasser des séropos, alors que ça les a jamais emmerdés de fracasser des militants de la cause des sans-papiers à Saint-Bernard. On s'est quand même fait casser la gueule alors qu'on était les mêmes militants. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand on va déposer des manifs à la préfecture, même au bout de 20 ans d'ACT UP, on a quand même, c'est vrai, on le sait, on a un traitement différent, mais qui est aussi dérangeant. Ça veut aussi dire que dans la vue des policiers, les séropos d'ACT UP sont les mêmes corps malades que ceux de 90, et ça pose aussi une question problématique. Enfin, moi, ça me dérange aussi beaucoup en soi. Mais en même temps, bon, ça nous sert bien dans l'usage. Oui, mais c'est aussi, apparemment, t'as raison, Victoire, c'est aussi qu'il n'y a jamais eu de dérapage dans la grève et qu'en plus on déteste ça. Et pour vous le dire, on ne sait pas faire. Ce n'est pas notre culture. Pour avoir beaucoup milité avec d'autres groupes d'extrême gauche, c'est pas notre culture, là, la culture de l'affrontement physique. C'est pas pour rien qu'on s'est fait sauver par un 1er mai par des militants de la CNT, qu'on a failli se faire casser la gueule par des militants de la CGT, je vous rappelle, parce que c'est pas notre culture. On sait pas se battre, en plus on n'a pas envie de le faire. Donc voilà.
Non, que les policiers courent après les techniques d'ACT UP, ça me paraît la moindre des choses. Mais c'est pas les seuls d'ailleurs. Là, bien avant Vigipirate, on a malheureusement contribué à rendre plus difficile l'accès dans les ministères. C'est-à-dire que c'était tellement improbable que des gens rentrent dans les ministères, pénètrent dans les bureaux, etc., etc., qu'en fait, si on s'en souvient, c'était très très facile de rentrer dans un ministère. Moi, je me souviens très bien, la première fois qu'on a fait un zap au ministère de l'Éducation nationale, on a bloqué intégralement le ministère, alors qu'on n'était quand même pas si nombreux que ça. Le lendemain, c'était devenu absolument impossible. C'est une forteresse, le lendemain. C'est-à-dire que les designers s'y sont mis, ils ont construit des trucs pour nous empêcher. Quant au labo, il y a une histoire que je continue de trouver irrésistible. Il y avait un laboratoire qui s'appelait Welcome, qui était le producteur de l'AZT à l'époque, qui n'existe plus parce que il y a eu rachat et fusion successives. Mais enfin, l'AZT existe encore, mais le laboratoire qui s'appelle Welcome non. Et le laboratoire, s'attendant à un zap d'ACT UP, s'était vu faire une formation avec l'intégralité de ses membres par son agence de communication, où l'agence de communication avait payé les acteurs pour faire des faux militants d'ACT UP qui avaient fait irruption dans le laboratoire. Il y avait des faux tracts qu'on a récupérés, qui sont des merveilles évidemment, mais c'est un peu vrai, un peu faux par la même occasion, mais en tous les cas, tout le monde a dû courir finalement après ces techniques qui à l'époque étaient en vérité relativement neuves, qui depuis aujourd'hui se sont démultipliées, tant mieux, parce que la beauté en fait du zap tel que l'a décrit tout à l'heure Victoire, et Victoire avait raison quand elle parlait de fantomètre, c'est que ce qui est mystérieux avec le zap, c'est de découvrir qu'on peut être une dizaine et bloquer un ministère. C'est-à-dire que c'est le mélange entre le club des cinq et le bureau de la CIA, quoi. C'est vraiment cette espèce de très très grand décalage entre l'impression qu'on est finalement très peu, très faible, très inexpérimenté, etc., etc., et puis l'impression que brusquement on se découvre des puissances incroyables, puisque on est capable de fermer une usine pendant une journée, d'arrêter la production, de bloquer l'accès à un ministère, de pénétrer dans un bureau, de désacraliser en quelque sorte ces lieux-là. Et ça, d'ailleurs, on n'agit pas forcément au niveau symbolique, parce que quand on ferme une usine, enfin quand on empêche en tous les cas la production, ne serait-ce que pendant 8 heures d'une usine, ça pose des problèmes à l'entreprise qui produit les médicaments dont on ferme l'usine. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi je racontais ça.
Oui, enfin, c'est aussi parce que du coup, on choisit des incarnations. Enfin, quand la cible était l'État, on choisissait des incarnations, c'est-à-dire justement de refuser que ça soit l'État en général, et ça allait être telle personne, et ça allait être des visages. Enfin, ça allait être, on allait pousser leur incarnation jusqu'à un point assez, fort. Et pour revenir sur, oui, c'est ça. C'était désigner des responsabilités très clairement. Et pour revenir, oui, tout à l'heure sur ce que, ça a été intégré très tôt dans des formations à la fois de la police. De toute façon, la police en France est quand même relativement bien formée. Enfin, que t'as pas eu beaucoup plus de problèmes avec des agents de sécurité et s'est fait quand même frapper. Et à Notre-Dame de Paris, par exemple, ils sont quand même plus rudes. Bah, à Notre-Dame de Paris, c'était il n'y a pas si longtemps.
Le mariage, je veux dire. Non, et ça a été aussi. Enfin, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est a été aussi intégré hein, dans les formations des aux fonctionnaires d'État. Enfin, pour les directeurs d'hôpitaux, pour à la sécurité sociale, ils avaient fait des formations. Ce qui est amusant, c'est que voilà, il y a une sorte on essaye par la formation de gagner du terrain. Mais je pense que c'est par ailleurs, c'est oui, c'est ça, c'est la moindre des choses. Mais il y a aussi voilà, il y a un côté bricolage dans le ZAP qui fait que ça marche même face à une préparation. Enfin, c'est un côté un petit peu, voilà, c'est ça qui renforce et qui a gardé au fil des ans le côté un petit peu fantomètre. Moi, j'ai souvenir d'actions où ils savaient qu'on allait venir. Ils étaient prévenus, ils avaient loué des agents de sécurité parce qu'on allait venir. Et c'était justement oui, l'Assemblée générale des actionnaires, où c'était quand même, nous, on était complètement perdus. On était dans un petit van blanc, enfin, vous savez, les trucs qu'on loue les moins chers. On est arrivé là, on était donc au milieu, donc entre le bois de Boulogne et Neuilly, on était complètement perdus et on ne savait pas où aller. Seulement, comme il y avait tous les agents de sécurité qui sont partis en nous voyant, on les a suivis. Et c'est eux qui nous ont indiqué le chemin. Et à la fin, ils ont voulu nous fermer la porte sous le nez. C'était une très belle porte coulissante en verre. Sauf que le rideau... Enfin, c'est là la magie du ZAP. C'est-à-dire, le rideau s'est coincé dedans. Et on a juste eu à tirer le rideau. Marc l'avait attrapé. Et on est tous rentrés. Mais voilà, il y avait à la fois une énorme préparation de leur côté. Et je pense qu'ils s'attendaient à ce que, de notre côté, ça réponde à peu près à la même préparation. Sauf que c'était beaucoup plus désordonné. Et c'est face à ce côté désordonné qu'ils n'ont pas été capables d'agir. Parce que ils ont fait un mur face à la porte de l'AG, et c'est pareil, on aurait été bien incapable de trouver le lieu de l'Assemblée Générale dans ce lieu qui était assez grand, mais comme ils ont fait un mur devant, et ben les militants ont avancé, et là ils ont fait des choses, voilà, des agents de sécurité, ils étaient prêts à quelque chose un peu physique, mais pas à ce qu'on marche à quatre pattes, et là du coup ça les a complètement pris de court, hein. Je me souviens, c'est Anne qui avait dit maintenant allez-y, et donc les gens ils sont allés, mais voilà, comme des souris, et là c'était, donc ils sont, voilà, il y a une préparation, il peut y avoir une préparation en amont, et puis par ailleurs, voilà, il y a quand même une part de surprise, c'est-à-dire ils nous imaginent quand même toujours autrement, et c'est pour ça que, bon, par ailleurs, il s'agissait à chaque fois de, voilà, on avait un objectif qui était, voilà, d'obtenir une médiatisation, il y a plein de moyens d'atteindre cet objectif, donc si c'est pas cette action-là, aussi, c'est une autre forme d'action, donc il y a pas, on peut pas, enfin... Oui, c'est les qu'il y ait des techniques de l'autre côté en miroir empêche pas ouais, la pertinence et l'efficacité de l'action.
Il y a aussi un truc, c'est que nos actions sont, enfin, les apps d'Actop sont assez, ils varient, mais bon, c'est toujours un peu la même chose. C'est une irruption, on crie des slogans, on a des tracts ou du faux sang, on s'allonge un moment. Dès que ça marche pas, on fait un dying et basta. Et puis à un moment, il faut qu'on nous sorte. Et moi, je me rappellerai toujours, j'étais pas, t'étais peut-être toi. Il y a une action à Genève en 94 ou en 95. C'est le début de la lutte sur l'accès aux médicaments. T'y étais, Victoire, ou pas? C'est une action très compliquée. C'est la première fois qu'Actop commence vraiment à aller à Genève, à la Banque mondiale, pour gueuler sur l'accès aux médicaments pour les pays du Sud. Les militants d'Actop sont attendus, ils arrivent dans une réunion où ils ne sont pas invités, ils font éruption, et là on attend à ce qu'ils fassent un dying, et on attend à ce qu'ils gueulent, après on les sortira. Et là, la résistance de Anne, à l'époque de Anne Rousseau, ça a été de dire « non, on reste debout, faites votre réunion et on va rester là, debout ». Ce qui les a complètement décontenancés, parce qu'ils étaient prêts à tout, à du faux sang, à un dying, même sur les bureaux et tout ça, et en fait les militants d'Actop ont refusé... Et on fait un truc ridicule, c'est-à-dire qu'ils sont juste restés debout avec leurs t-shirts et leurs tracts au milieu d'une réunion, au milieu des tables, parce qu'elle nous avait fait le dessin. Mais c'est ça aussi l'usage du corps, c'est qu'il n'est pas là où on l'attend, et puis il fait éruption. Et l'idée, c'est aussi de savoir comment réagir, parce qu'il faut être clair, j'allais venir dans l'Actop, même nous, on connaît par cœur comment ça se passe, un zap d'Actop. En fait, c'est à nous qu'on devrait demander, quoi. Non, mais c'est ça. Tout le monde croit que, enfin, c'est vrai que c'est toujours la même chose. J'ai encore vu à Mexico. On a vu des apps avec Christophe à Mexico au mois d'août. C'est vrai qu'on est capable de prévoir exactement comment ça va se passer. Et que, à chaque fois que l'inventivité, elle est aussi là, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut inverser le truc pour continuer cette action et garder toujours l'idée que le corps est central.
Et moi, je me souviens d'un zap très physique aussi au ministère de la Santé avec Elisabeth Huber en 95, où elle lance une campagne de prévention dans laquelle, pour la première fois, il y a vraiment un message très directement adressé aux homosexuels, et au final, il est supprimé, ou en tout cas très, voilà, très adouci, ou très, voilà, très édulcoré. Et le zap commence, une première intervention, une deuxième intervention, et le ton monte, et surtout, au fur et à mesure, il faut imaginer une salle du ministère pleine de journalistes et de gens du ministère, et petit à petit, les militants d'ACT UP s'approchent de la table, et tout d'un coup, la ministre se retrouve, mais vraiment cernée. Il y a une photo, pareil, où on voit, elle est totalement cernée, encerclée par les militants, y compris par Bernard Bousset, le président du SNEC, était pourtant pas très militant, qui lui aussi gueulait. Tous les militants étaient partis en vrille à hurler sur la ministre. Et quelque part, moi, j'étais, entre guillemets, satisfait que les flics arrivent. Il n'y avait plus d'issue. C'était vraiment là, le ministre était totalement nu, totalement désarmé, totalement incapable de faire avancer quoi que ce soit. Personne n'était capable de nous faire taire. Stéphane hurlait, Éric Fleutelot hurlait, Anne Rousseau hurlait. C'était une espèce de cacophonie militante, mais voilà. Et la seule façon, là, pour le coup, c'était qu'effectivement, les flics arrivent, ce qui est quand même dingue. Enfin, vous imaginez une scène pareille. C'est-à-dire un ministre, des journalistes, des militants et la police qui arrive et qui embarque tout le monde. Les journalistes totalement... Pas la ministre, les journalistes totalement passifs. Et moi, j'ai quand même la naïveté de croire que ce corps à corps, si on peut dire, même s'il n'y a pas de... On ne se touche pas, ce corps à corps... Voilà, il met le pouvoir à nu. On se rend compte que finalement un ministre c'est pas grand chose et que 10 malades face à un ministre pendant une heure qui vont le bombarder de questions et de revendications, et ben ça fait que un mois après, peut-être deux mois après, peut-être un an après, quelque chose va avancer. Et j'ai la naïveté, la candeur de croire que oui, c'est pas la même expérience pour un ministre que de faire des lois, de recevoir des gens, nanana, poliment, etc. Et d'avoir en face de lui des folles hurlantes ou des gens qui se mettent à crier et qui se mettent à faire un daïn.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, on clôt le débat. Oui. Bon, Christophe est fatigué, donc on va arrêter. Non, mais... donc, c'était pas complètement prévu en même temps. Si, j'annonce la prochaine séance droit des corps par les mots, par la loi, en présence de Caroline Mécari, qui est notre avocate dans l'affaire Van Est. Donc, je sais pas si tu voulais faire... Voilà, vous vouliez peut-être faire un petit mot sur le procès Van Est.
Je voulais en parler tout à l'heure, mais c'est une fin un peu plombante. Il se trouve qu'aujourd'hui, la Cour de cassation vient de blanchir Christian Van Est de sa condamnation pour propos homophobes. Vous vous rappelez, Van Est, député du Nord, UMP, avait été condamné en 2006, puis en 2007 en appel. Après des propos, il avait dit que l'homosexualité était une menace pour l'humanité, que les homosexuels pouvaient être, enfin, qu'ils considéraient qu'ils étaient moralement inférieurs aux hétérosexuels. Et ces propos-là, qui étaient quand même d'une clarté un peu plus claire, ont été condamnés une première fois, puis une deuxième fois. Et là, la Cour de cassation vient de dire que non, s'il s'agit de liberté d'expression. Donc on peut considérer aujourd'hui que dans le voilà, les homosexuels sont une sous-catégorie de citoyens, mais ce n'est pas homophobe et ce n'est pas condamnable et c'est tout ça est formidable. Voilà. Donc, ACT UP va faire des choses quand même.
Oui, on va. Non, mais déjà,
il ne faut pas le dire en public.
Non, mais on va aller à la cour européenne, par contre. Ça c'est. Oui, c'est certainement, mais enfin bon, on a appris ça tout à l'heure. Hein, mais...
Donc si vous voulez en savoir plus, il faut venir le jeudi soir en RH, voilà. À 19h30 au Beaux-Arts. C'est le jeudi soir maintenant, ce n'est plus le mardi. Et vous avez toutes les infos sur www.actupparis.org. Prochaine séance d'écrans sociaux, donc le 14 janvier, le droit à la folie, donc il y a toujours un lien avec ACT UP. Et Sun in Your Head, insurgé du corps, art en action à l'écran. Voilà. Merci. Vous avez toutes les informations de la Maison Populaire sur www.maisonpop.fr. Voilà.